began.
Peut-être que j'y aille, peut-être que j'y aille. Donc je clique là, j'éteins ça, je suis en train de regarder des vidéos de Street Fighter sur Twitter, rien ne va plus. Comment ça va vous en ce dimanche 11 juin 2023? J'aime bien commencer comme ça en vous donnant la date et l'année même, pour ceux qui seraient perdus un petit peu. Après par exemple un samedi soir compliqué, un peu électrique ou un peu foufou. Il y a des gens qui ont vécu un samedi soir électrique compliqué, un peu foufou ou pas? Le mien a été très calme. C'est l'âge. Quelle heure? Oui. 8h40. Putain, je lance un stream à 8h46 un dimanche, mais ça n'a aucun sens en fait. Mais qui est debout? Le la question rhétorique très intéressante. Qui est debout ici à 8h46 dans le chat un dimanche matin, ce qui n'a aucun sens. Soirée calme du côté de Morgane. Dosage 3, ne s'est pas encore couché, toujours debout, ça c'est bien. Oula, un peu trop d'argent perdu au casino pour Murana, mais ce matin ça va. Qui je comprenais pas les... je suis assis, je suis allongé. Oui, je viens de demander qui est debout. Oui, tous ceux qui sont allongés dans leur lit, pour moi, vous êtes debout. Ceux qui ont un chien à promener sont debout, me dit Rainbow86, bien sûr, oui. Boulot, malheureusement, pour moi, me dit Seigneur Pépé Boy, il y en a qui bossent, bravo. Ma petite de 2 ans ne connaît pas les grasses matinées, Chocoendo, bienvenue dans ce gentil club. Ne nous mens pas, Samuel, samedi chill, on sait tous que tu as dosé Street Fighter toute la nuit, Minos. Je ne répondrai pas à cette question. Réglisse, c'est la Gironde, ça, 33, non, c'est ça? Ouais. Au sport, mais bravo, Kikig. Mais pourquoi demandes-tu? Mais parce que le sport, c'est la vie, parce que c'est l'équilibre, parce que c'est l'hygiène de vie, parce que c'est le cardio, parce que c'est la respiration, parce que c'est une belle peau. Puisque ceux qui font du sport ont une peau qui respire, et donc la peau est tonique, la peau est belle, le muscle, la peau est tendue comme un. Très tendue, comme un élastique, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc, bien sûr, c'est très. Bravo à toi, bravo à toi. Ça met les petits yeux, ouais. Page Superman, si tu savais. Toutes les photos, de temps en temps, quand on fait de la télévision, les gens vous arrêtent dans la rue pour faire des selfies, ce qui est très sympa d'ailleurs. Et en fait, ces derniers temps, je me suis rendu compte, quand les gens montraient la photo, qu'il fallait la refaire, puisque j'avais les yeux fermés. C'est-à-dire que dans ma tête, ils sont ouverts. Et en fait, je fais les photos comme ça, quoi. Voilà. Et c'est fou. Et quand je dis, attends, on va la refaire, je vais ouvrir les yeux, j'ai les yeux. À peine, voilà. Et on sent qu'il y a un truc, quoi. On sent un truc fin de saison, super bizarre, quoi. Voilà. Donc, page Superman, ouais. Les petits yeux, effectivement. Mais les petits yeux, tout le temps, quoi. Petit déj et sport tout à l'heure. Pff, l'hygiène de vie de ces gens, bravo. Auprès du livre. Auprès des livres, d'ailleurs. Ah, ça va, vous, les yeux, cette fin de saison? C'est pas trop dur, la fin de saison, là? Je parle en télévision, en radio. Dans les médias, on parle toujours de saison, septembre-juin, quoi. Vous aussi, vous vivez ça en saison, septembre-juin, ou en année? Vous voyez ce que je veux dire? Comment se passe cette fin de saison pour vous? Tu as fait une, c'est mignon. Je crois qu'on ne m'avait jamais. C'est une question qu'on m'avait jamais posée en 30 ans de télé et quelques années d'internet. CLSPPR, je me demande si je veux une coloration. C'est adorable. Je suis bien coiffé, j'ai bien aussi mon petit coup de brosse du matin. Les gars, les filles, vous en pensez quoi? Coloration, j'ai toujours mes cheveux blancs, ça change pas ça. Bizarrement blanc sur les côtés et un peu moins blanc sur le dessus, ça c'est le mystère de la génétique, c'est très très étrange d'ailleurs. Pourquoi ils sont pas blancs là? Ou pourquoi ils sont pas plus noirs là? Ça c'est un vrai mystère. Coloration, vous en pensez quoi? Salut le gifted player. Merci du tabloïd Junkie, ça y est, on est parti à l'exploration du monde du jeu vidéo, ça va être énorme. Vendredi prochain, nouvelle édition de Ça me plaît avec surprise. La coloration, vous en pensez quoi? Vous voyez un truc changer dans mes cheveux ou pas? Oh Arthur, va pas dormir, reste avec nous. C'est pas parce que la soirée a été chargée qu'il faut aller dormir, c'est fou ça. Vous en pensez quoi? Vous trouvez que j'ai changé quelque chose avec mes cheveux ou pas? En vrai, je trouve que c'est un peu comme d'hab, en fait. Bimbo Jet, merci pour ce 16e mois d'abonnement. Merci de ce soutien. Tu es le premier sub du matin. J'ai arrêté le match hier. J'ai regardé une partie de la finale, effectivement. Roland Garros dame. Ouais. Waouh, c'était beau, hein. En fait, je suis. Où est-ce que j'étais? J'étais. Où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que. Pourquoi je suis revenu de la maison? Ah oui, je me suis endormi avec mon petit dernier, je faisais une mini-sieste. Et quand je me suis réveillé, mon beau-papa et mon aîné Malo étaient en train de regarder la finale dame. Malo était à fond. Il adorait. Et donc j'ai vu une partie du match. C'était chouette, hein. Merci Damien Karvenik pour ce quatrième mois d'abonnement et ce salut aux joueurs de Street Fighter avec la plus belle tenue de joystick. Je tenais mon joystick comme ça. Kayane a passé une bonne partie du stream de vendredi soir à me dire mais non, pas comme ça, les doigts pas collés, les doigts comme ça. Et la paume, le joystick, c'était drôle. Elle était tellement patiente, tellement pédagogue, c'était cool. Est-ce que je vais regarder la finale de Roland Garros? C'est à quelle heure la finale de Roland Garros? Je dirais oui. Malo et Solal vont peut-être kiffer. Malo manifestement a beaucoup aimé la finale dame. Je vais lui montrer peut-être la finale entre Djokovic et Ruud, hein. On va en parler ce matin parce que c'est un sacré match. Vous êtes beaucoup à me parler d'e-sport aussi et du match entre Gentlemates et Mandatory, et on me dit que Gentlemates a gagné. Wow. Ah, vous parliez peut-être de la finale de la Ligue des Champions. Non, j'ai pas regardé ça. Je vous avoue que vous le savez, je suis pas super foot. Je suis le football pour dire à peu près pas trop de conneries quand j'en parle dans les journaux, mais ça n'a jamais été une vraie passion, quoi. Je dis pas que c'est pas bien le foot, hein, c'est juste que moi j'ai pas joué, voilà. Donc je faisais de l'escrime, que tu vois, là le sport, j'ai fait 12 ans d'escrime. Donc bon, les matchs d'escrime à la télé, c'est pas souvent. Donc non, j'ai pas regardé la finale de la Ligue des Champions. Il y aurait eu un club français, j'aurais regardé, hein. En bon footix que je suis, quoi. Ah ouais. Oui, c'est prévu, Minos. En vrai, Samplay était cool, mais ce serait bien. Donc Samplay, pour ceux qui l'ont raté, c'est en replay, c'est gratuit sur ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube. Samplay, c'est l'émission que je viens de lancer. Deux premières émissions en juin et qui va devenir, je l'espère, hebdomadaire en septembre, de découverte du monde du jeu vidéo. Un vieux machin, moi, des invités, des spécialistes de tel ou tel jeu vidéo. On joue, on en parle, on se régale. C'est ce qui s'est passé avec Kayane vendredi. Et après, effectivement, comme le dit Minos, en vrai, Samplay était cool, mais ce serait bien de continuer sans s'arrêter après, faire des sessions solo, genre découverte, puis session solo après. Oui, carrément. Bon, là, le temps me manque parce que j'ai toujours toutes mes activités à côté, quoi. Mais l'idée, c'est ça. Hein. L'idée, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Bien sûr qu'on va faire une prédiction sur la finale de Roland Garros Remake, bien sûr. Fleuret, EVO. Fleuret, j'étais fleurettiste. Mais en vrai, je pense que je me suis spécialisé en fleuret pour des raisons que j'ignore d'ailleurs. Je crois que mes bons potes étaient fleurettistes. On était tout un groupe. Il y avait un très bon club à Rennes qui avait un très bon niveau d'ailleurs. Mais je crois que mes potes étaient fleurettistes. Mais je pense que au niveau de ma aujourd'hui, ce serait à refaire. Peut-être que je choisirais l'épée. Je sais pas. Ouais. Le sabre, j'en ai très peu fait. Mais peut-être j'aurais peut-être dû essayer l'épée. Si un jour je me remets à l'escrime, pourquoi pas, peut-être que je tenterai l'épée. Fabien, merci pour ce 13e mois d'abonnement. Excusez-moi. Ça tousse un peu, c'est rien, c'est les pollens, ça va passer. Carole, CGM, merci pour ce 18e mois d'abonnement. Bon, vous, sinon, ça va, ça. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces dernières heures, là? Régulièrement dans le chat, on me dit, hey, t'as vu ça? Et je fais non, des choses qui parfois viennent de se passer. Hier par exemple, on a débuté ce stream, non pas avec la lecture des articles que j'avais mis de côté pour vous, mais avec cette histoire incroyable de ces 4 enfants découverts après 40 jours d'errance, sains et saufs dans la forêt amazonienne dinguerie. C'est vous qui m'avez prévenu que c'était tombé. On est allé voir l'histoire que j'avais suivie depuis le début, qui est juste totalement insane. Et eh ben aujourd'hui, on a un papier justement qui nous raconte toute l'aventure. C'est incroyable, on est super content pour ces 4 enfants. Donc ça, c'est vous qui m'en avez parlé hier matin, on est parti là-dessus. Et puis, c'est pour ça que j'aime bien vous demander un petit peu ce que vous voyez dans l'actualité, parce que il y a des choses que je ne vois pas, et puis c'est toujours intéressant de savoir ce qui vous a intéressé. Vous, Superpool, merci pour ce 10e mois d'abonnement. Place du Paradis, merci pour ce 17e mois d'abonnement, c'est adorable. On parle beaucoup de l'attaque Annecy, Spangam en parle, il va se rendre d'ailleurs au rassemblement ce matin sur place. Mysterious X-Jack m'en parle, on va y revenir ce matin, bien sûr, sur l'attaque d'Annecy, même si on en a longuement parlé hier soir. Ah, Nat me parle de la découverte de la plus grande ressource mondiale d'hydrogène en Alsace cette semaine, ça va changer l'industrie de la France. Merde, c'est quoi le titre du stream? Ah ouais! Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai vu. Le titre du stream, c'est La matinée tienne, on lit les journaux ensemble et on débrief la première de Sam Play. C'est vrai qu'on l'a longuement fait hier, donc je peux peut-être changer le titre du stream, vous avez raison. On va pas y revenir, même si j'étais très 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 content, mais vraiment quoi, de cette première. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette émission, et je suis très heureux de l'accueil qui lui a été réservé. Merci. Vous allez voir cette histoire d'hydrogène là. Salut Alexandra. Oui, j'ai pas fait de tweet pour annoncer ce stream, je suis en mode cool. Oh, c'est plus compliqué que ça, mademoiselle bébé, c'est intéressant ce que tu dis. Très étonné de lire dans Le Monde que l'agresseur d'Annecy n'avait pas a priori de troubles mentaux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On va l'évoquer. Qu'est-ce qui s'est passé à Rennes? Sérieux? Je vois des dingueries là, attendez. Je vois une info au chat là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va aller voir l'histoire de l'hydrogène aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à Rennes là? Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, j'avais pas vu ça. Mais c'est une vieille histoire. C'est une histoire d'il y a 5 jours. Oh là 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 là. Bon, on commence sur le chapeau de roue. Regardez ce que... c'est Lilou Larenès qui m'a parlé de cette info qui m'a échappé. Bon, c'est un fait divers, mais il est quand même ouf. Et au-delà du... pardon, du fait divers, il y a une histoire... assez folle d'agression filmée, meurtre à la machette à Rennes, garde à vue pour une jeune femme soupçonnée d'avoir filmé l'agonie dans le métro. Une vidéo a beaucoup circulé sur Twitter montrant l'agonie et le décès d'un homme ayant reçu des coups de machette devant le métro de Rennes ce 5 juin. Une jeune femme d'à peine 20 ans est soupçonnée d'avoir filmé et diffusé la scène, délit passible de 5 ans d'emprisonnement. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre monde, quoi? Nom de Dieu. Je ne veux pas cliquer, je ne veux pas voir les images. Donc, le procureur de la République de Rennes a obtenu le retrait de ces images sur Twitter et il a confié à la PJ une enquête pénale pour déterminer l'auteur et l'enregistrement de cette diffusion. Il y a Metal 18 Mamboué qui écrit « Mais les gens sont vraiment cinglés, je ne peux pas te donner tort. » La victime, âgée de 26 ans, âgée du Sénégal, avait trouvé refuge dans la station de métro Henri Fréville. Je connais bien, c'est ma ville. Il était descendu au niveau du quai par les escaliers après avoir été attaqué très violemment à la machette. Une personne sans domicile fixe lui avait apporté les premiers secours, bravo à toi, en lui faisant un garrot au niveau de la jambe. Ce jeudi 5 juin, une personne était actuellement en garde à vue pour avoir filmé et diffusé cette agonie. Le parquet de Rennes annonce qu'il s'agit d'une jeune femme née en 2004 sans antécédent judiciaire, elle était passée en garde à vue. De moins de 20 ans, elle a été arrêtée pour avoir diffusé ces images ainsi que pour non-assistance à personne en danger. Ok. La vache. Merci Kiboul Geek pour le gentil message et le salut. Arsène Clé-Clic, comment faites-vous pour encaisser toutes ces infos horribles tous les jours depuis autant d'années? Je pense que je me suis hélas habitué, c'est-à-dire que, heureux, comme les médecins qui, sur le corps humain, le chirurgien à la vue du sang, ou quand ils ouvrent les corps tout tranquillement comme ça, il y a une distance qui finit par s'installer, malgré moi d'ailleurs, entre les faits, notamment les plus horribles, et le fait que je les évoque, même si parfois j'arrive pas à mettre cette distance et que ça me touche, quoi, comme nous sommes tous touchés, quoi. C'est dingue cette histoire de Rennes, là. Merci Lilou Larenès pour cette info, quoi. Je pense que Dark Lucky Chance fait de l'humour, je pense, en nous disant que cette jeune femme était peut-être en état de choc émotionnel. Donc qu'elle était en état de choc émotionnel suffisamment pour ne pas appeler les secours ou aller au secours de cette personne qui était en train d'agoniser et qui donc est morte, hein. Mais pas assez pour sortir son téléphone et filmer puis diffuser la scène, hein, sur les réseaux. Ok. Incroyable. Alors, ce qui est bizarre, c'est que l'article parle beaucoup de fait que c'était filmé et diffusé, mais très, très peu de ce meurtre à la machette, qui est quand même une dinguerie, quoi. C'est, oui, je suis d'accord. Il y a Kemos qui dit, et sinon on parle du meurtre plutôt que de la vidéo, comme si l'info principale c'était la vidéo. L'info principale, on est d'accord, c'est quand même qu'un mec a été tué à coups de machette à Rennes, quoi. Attendez, j'essaie de vous trouver. J'ai un article dans l'Alsace ici, le quotidien régional de l'Alsace. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Bon, pardon de commencer par ce tragique fait divers. Hop, je vous montre le quotidien l'Alsace. Attaque après une altercation. Ce mardi midi, le parquet de Rennes a expliqué que l'homme avait été tué à la machette pour une raison encore inconnue. Une altercation a éclaté entre deux individus. Attaqué violemment à la machette, la victime a trouvé refuge dans la station avant de descendre au niveau du quai par les escaliers. Voilà. Et malgré les manœuvres de réanimation, le décès a été constaté. Aucune interpellation. Donc, on parle de l'agresseur cette fois, de la personne qui a trouvé la mort. Aucune interpellation n'a eu lieu. Originaire du Sénégal, la victime était déjà connue de l'institution judiciaire et sa famille résidait dans le quartier. Ok. C'est ouf. C'est ouf. Sinon, j'aime bien cet exercice de, avant de lire les journaux, d'aller voir les infos dont vous me parlez. On va aller voir cette histoire d'hydrogène, là. Quoi, la plus grande réserve quoi, d'hydrogène au monde aurait été découverte en France. C'est quoi cette histoire? On va aller voir. J'ai pas vu grand-chose. Kaliki, merci pour ce 14e mois d'abonnement. Et allons voir. Alors, hydrogène, France. Donc, un mec avec une machette se balade à Rennes. Poppy Pop, bah oui. Moi, je serai à Rennes samedi prochain pour une exposition Étienne, c'est-à-dire une visite d'exposition slash de musée, la dernière de la saison, après la Fondation Louis Vuitton, après le musée du Louvre, après le musée d'Orsay, après le muséum de Bordeaux, après le musée du Quai Branly, après le musée national des arts asiatiques, guillemets, waouh, tout ça. Eh bien, nouveau stream dans un musée, ce sera samedi prochain à Rennes. Où exactement et avec qui? Je vous le dis bientôt. Il faut un petit peu que je m'en occupe quand même. Ouais, je vois des actus là. Hydrogène, Lorraine, c'est en Lorraine. C'est vrai que ça n'a pas fait la une des journaux ce truc là. J'avais vu un article rapidement. C'est un article de France 3 Régions. Chien GPT, je ne peux pas le dire. Mais je vois que tu as de bonnes infos. Je ne dis rien. Concernant l'expo. Voilà pourquoi je dis que je ne vais plus dans le centre de Rennes, me dit Lilou Rennaise. Ça devient dingue entre ça et drogue partout. Voy. Qu'est-ce qui se passe à Rennes? C'était pas comme ça, moi, à mon époque. C'est plus calme, hein. Transition énergétique. Un gisement d'hydrogène naturel exceptionnel, comme dirait l'ami Rayou, découvert en Lorraine, point d'interrogation. La Lorraine sera-t-elle le nouvel Eldorado énergétique de la France? Deux directeurs de recherche de l'Université de Lorraine le pensent. Ils ont découvert d'importantes concentrations d'hydrogène blanc sur le site pilote de la Française de l'énergie à Folchwiller, en Moselle. Pardon. Découverte inopinée. Je pense que ces deux messieurs nous montrent l'endroit où ça se passe, là, au croisement des deux doigts. Hydrogène natif, source d'énergie très convoitée pour la transition énergétique, immense perspective tant au niveau de la recherche qu'au niveau économique. Si c'est confirmé, donc un petit si, ce serait le plus gros potentiel d'hydrogène naturel découvert à ce jour en France et en Europe. Quelqu'un me disait dans le monde tout à l'heure, ce serait France-Europe. Vachement bien fait l'article.
Ok.
Donc les gens qui bossent là-dessus se donnent 2 ans pour aboutir à une cartographie complète des ressources en hydrogène natif sur le territoire de, et la mise en place d'un système d'exploitation à l'échelle industrielle. À suivre donc, à suivre. C'est affreux, il y a plein qu'on devinait déjà où je vais samedi prochain. Il y a des gens qui manifestement suivent l'actualité culturelle et qui ont deviné dans le chat où j'allais. Voilà. Mais bon, je ne dis rien, ce sera la surprise. Surprise pour le lieu de l'exposition Étienne, je vous annonce ça en début de semaine prochaine, je pense. Et avec qui, bien sûr, puisque je vais, maintenant j'emmène des gens. Hein. On a amené Marie Palot et Foki au musée national des arts athlétiques. On a emmené l'ami Étoile au musée du Quai Branly. Là, on va emmener un autre streamer, une autre streameuse. Voilà. Et vendredi prochain, n'oubliez pas, deuxième numéro de Sam Play, voilà, Papy Sam à la découverte de l'univers fascinant et multiforme du jeu vidéo, avec un nouveau jeu vidéo et un nouvel invité. Je vous annonce ça également en début de semaine. Gros Bob du 31, j'espère que tu vas bien, merci pour ce 11e mois d'abonnement. Bon, on va commencer la revue de presse, on va lire les journaux. Le dimanche matin, on lit Le Monde, on lit Le Parisien dimanche et on joue... Maintenant, je veux placer le mot jouer partout. Et on lit également le journal du dimanche. Non, Guettari, j'ai pas joué à Street Fighter depuis par manque de temps. Mais on va remédier à ça. On va remédier à ça, bien sûr. Hein. Puis en vrai, on a joué sur PC. Le jeu avait été apporté par Kayane. Et moi, j'ai pas Street Fighter à la maison. Il faut que je m'achète la console. Mais on va faire ça. Et l'idée, c'est vrai qu'après ces émissions, ça me plaît, c'est qu'après, je joue un peu solo, quoi. Mais ça, c'est ce que je pense que ce que je ferai à partir de la rentrée prochaine, quand j'aurai un petit peu plus de temps. Voilà. Bon, on va brancher ça. Je vais juste aller me moucher. Je vais aller prendre un peu de spray parce que je sens que mes poumons sont un peu irrités par les pollens. Et puis, let's go, quoi. OK ? Donc, je vous mets même pas de musique, rien du tout. Il y en a pour... 30 secondes, le temps de me moucher, de faire pch 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 dans la bouche, et on lance la revue de presse. Je vais déjà brancher la tablette pour vous montrer ce qu'il y a ce matin. Il y a des trucs sympas, enfin sympas, intéressants. Je dis sympa, alors qu'on va commencer par la guerre en Ukraine, qu'on va parler d'Annecy. C'était clairement pas le mot à utiliser. Samuel, encore une masterclass. Voilà. Est-ce que ça marche déjà? Pouh, impeccable. Quelle machine. Ok. Vous me laissez... genre 30 secondes, une minute, hein, mouchage et spray-chage dans la bouche et j'arrive, ok. J'arrive. C'est bon, j'ai fait le spray. Attention, faut que je me rince la bouche parce que ces sprays-là, si vous rincez pas la bouche, après ça fait des aftes. Vous êtes prêts pour le rinçage de bouche ? Ah, comme ça on n'a pas d'aftes. Je suis d'accord avec quelqu'un dans le chat qui vient de dire qu'on devrait interdire le pollen en France. Hein ? C'est pas compliqué, non ? On met des frontières, on rétablit les frontières pour le pollen, voilà. Hein, on demande ses papiers à tous les pollens, et puis les plus allergisants, les graminées, tout ça, on dit non, on dit stop, hein, on dit non. Après, je suis en train de me dire que si on interdit le pollen, on n'aura plus de fleurs, plus de trucs et tout. Donc bon, je vais plutôt continuer à prendre mes petits sprays. Merci Dollar. Il y a quelqu'un qui nous suit depuis les États-Unis, j'adore, qui s'appelle Dollar. C'est trop mignon. Oui, un petit décret, hein, auprès des livres. Tu as raison. Hein, qu'est-ce que vous foutez, les politiques, pour interdire les pollens? Qu'est-ce que vous attendez? C'est fou, ça. Hein? Bah oui, on avait, comme le rappelle Caradoc, c'est un peu pour ça que je disais ça, on avait bien empêché le nuage de Tchernobyl de passer à la frontière. Vous vous rappelez le nuage de Tchernobyl qui avait arrosé quasiment toute l'Europe? Nous, en France, on n'était pas... Nous, en France, il n'était pas passé sur nous. Hein. On avait dit stop, on avait dit non. Hein. Bon, évidemment, on s'est rendu compte après que... il n'en était rien, qu'évidemment le nuage de Tchernobyl est passé, bien sûr. Donc je suppose que pour les pollens, ça va être un petit peu compliqué. Quoique, si on met en place un numéro vert comme le propose le Viking, peut-être que ça va fonctionner. Arma Guédindon, Joali, merci pour le Prime, merci beaucoup pour le soutien. Ah, il y en a d'autres des allergiques au pollen là. Bah, je compatis. Hein. De plus en plus d'ailleurs. Hein. Pollen. Pollution qui aggrave la sensibilité de plus en plus de gens qui sont allergiques, notamment chez les enfants. C'est chaud, quoi. Bon, enfin, bon, c'est comme ça, hein. Chacun ses petits soucis. Vart21fr, bonjour Samuel, pour combien tu vas sur Kick? Pour l'instant, je ne suis pas acheté. Voilà. Il paraît que tout le monde a un prix. Je ne suis pas acheté. Voilà. Voilà. Une espèce de rebelle, punk. Vous êtes prêts pour... Et un petit sommaire pour avoir l'essentiel de l'actualité en 10 minutes avant qu'on développe tout ça tout à l'heure. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que j'ai un go? Est-ce que j'ai un yes? Yes! Putain, t'es pas mal celui-là. Est-ce que j'ai un go? Est-ce que j'ai un yes? Wop, putain, la super bonne idée de ces bandicoots contre le pollen. Écoutez bien, moi j'ai dit on met aux frontières des barrières, quoi. Et on, voilà, on dit au pollen non, quoi. Est-ce que vous avez vos papiers, etc. Et tout. Mais pas du tout. Ces bandicoots à la solution. Écoutez bien, c'est pas mal. On se sert des éoliennes comme ventilo. On prend toutes les éoliennes qu'on a en France, plus celles qu'on va installer. Ça va finir, ça. Et on les retourne, les pales, vers l'extérieur, quoi. Hein, vers les frontières. Et on souffle. Et on souffle le pollen. C'est malin, ça. Ouais, bah après, il faut racheter tous les arbres et les fleurs en France, ça c'est moins cool, quoi. Pour un million, t'y vas pas, dit Larmina. Mais non, mais ça marche pas comme ça. C'est des métiers. Alors, moi, j'ai la chance d'être journaliste, qui était mon rêve d'enfant. Après, je suis devenu animateur, c'est rigolo. Puis après, je suis devenu streamer. Je sais toujours pas comment ça marche. J'ai des boutons partout. Je vous avoue que j'appuie un petit peu aux arts le matin, le son, l'image, la lumière. OBS, logiciel de stream, tout. Bon, j'appuie, ça marche, Inch'Allah. Super. Donc j'ai la chance de faire tout ça et c'est un truc de plaisir. Et ça ne marche que s'il y a du plaisir. Il y a une marche que si je kiffe, si j'ai la liberté dont j'ai besoin, de quoi encore, que je travaille avec des gens cool, parce que même sur Twitch, je travaille avec des gens cool. Et quoi encore, et puis d'être dans un cadre à peu près clean, quoi. Bon, j'ai vu quand même que sur Kik, il y avait des interrogations, notamment quant à la boîte qui gère ça avec l'argent des casinos, tout ça. Bon, à un moment, le matin, il faut pouvoir se regarder dans la glace et assumer, tout ça. Donc, voilà, l'argent n'est pas tout, quoi. L'argent n'est pas tout. Mais vous savez ce que ça fait au moins 1 million, Larmina? Renifleur de paix, j'ai la ref. 1 milliard. Oh, Flèche Azur, arrête, hein. Arrêtez, hein. Arrêtez avec les sous, là. C'est parti pour le sommaire de ce dimanche matin, puisque le dimanche matin, on est là, on est des champions de l'actualité, quelques semaines déjà, qu'on nous parle d'une éventuelle contre-offensive à venir des forces ukrainiennes contre l'armée russe envahissant l'Ukraine. Contre-offensive, elle est là, elle n'est pas là, elle arrive pas. On savait que ça allait venir effectivement après l'hiver, au printemps, a priori, oui. Ce serait parti, conditionnel, parce que l'Ukraine ne communique absolument pas, c'est silence radio total, c'est chut, on verra, le chut a vraiment été mis en place et mis en œuvre par l'armée ukrainienne. Donc a priori, oui, Kiev lance sa contre-offensive sur plusieurs fronts, on verra ce qu'il en est et pourquoi c'est, on m'a dit conditionnel, parce que Kiev, l'Ukraine est extrêmement discrète là-dessus. Donc on lira ce papier dans Le Monde, qui est très très bien fait, de la dernière édition du Monde, voilà. On verra que c'est chaud, hein. Putain, elle n'est pas terminée cette guerre en Ukraine. Hein. Quand on lit ce genre de papier, quand on voit les forces en présence, quand on voit que les forces ukrainiennes, effectivement, pendant la trêve hivernale, trêve entre guillemets, hein, des fronts qui étaient plus ou moins gelés, effectivement, s'est réarmé grâce au soutien des Occidentaux, mais qu'en face, l'armée russe n'a pas attendu non plus, Putain, c'est pas, comme le dit Gwen Egan à l'instant, c'est loin d'être fini. Ça, c'est super intéressant. Vous savez qu'on a un problème sur notre système de santé en France, à l'hôpital, mais pas seulement, en médecine libérale aussi. Bon, l'hôpital, les urgences notamment, ou encore la psychiatrie, pour parler que de ces sujets, bon, ça ne va pas du tout. Donc, il y a une vraie crise, je pense que tout le monde en a conscience. Mais en termes de médecine libérale aussi, on a un souci, notamment les déserts médicaux. Hein, vous savez qu'il y a plein d'endroits en France où c'est super chaud de trouver un médecin, d'avoir un rendez-vous avec un généraliste, avec un spécialiste. Parfois, c'est des mois et des mois d'attente. Et la maladie, parfois, elle n'attend pas des mois, quoi. Donc, idée, est-ce qu'il faut contraindre les généralistes est-ce que c'est que le généraliste ou c'est tous les médecins, d'ailleurs? Pourquoi c'est généraliste? C'est bizarre, le titre. Parce que moi, je crois que c'est pour tous les médecins. Pourquoi le généraliste? Ouais, c'est tous les médecins, hein. Ouais, c'est bizarre, pourquoi le titre dit généraliste? Pour moi, c'est tous les médecins. Faut-il contraindre les médecins au niveau de l'endroit où ils s'installent? Des députés, ça arrive à l'Assemblée, c'est une proposition de loi. Des députés veulent limiter la liberté d'installation des praticiens, mesure contestée par les professionnels. Les syndicats de médecins ne veulent pas de ce truc, ils disent atteinte aux libertés, vous faites ça, les jeunes ne vont plus vouloir faire médecine, c'est hyper intéressant, reviens petit article. Abracadabra, c'est fait, c'est bon. Je suis très très fort en technique. Et puis le ministère de la Santé, notamment le ministre de la Santé, eh bien, ne veut pas entendre parler. Pourquoi, comment, le débat, on en parle, vous me direz votre avis. Voilà. Coup de pression sur la liberté d'installation. On va revenir sur cette histoire totalement insane. Tiens, bah exactement. Eye of Gear nous dit les pharmaciens le font déjà, pourquoi pas les médecins? Effectivement, c'est l'un des arguments des gens qui sont pour cette réforme, effectivement. Plus personne ne fera médecine dans ces cas-là, dit Arson, voilà, une espèce de résumé qui est plutôt pas mal du débat. Voilà. Vous êtes nombreux à souligner le fait que les pharmaciens le font depuis très longtemps. Cette histoire est complètement folle, on s'est penché dessus hier matin en début de revue de presse sur Twitch. L'incroyable survie de 4 enfants en pleine jungle, on est en pleine Amazonie, en pleine jungle amazonienne, 4 enfants âgés de 1 an, 4 ans, 9 ans et 13 ans, c'était la grande sœur, ont survécu seuls 40 jours. 40 jours dans la jungle amazonienne avec les bêtes, avec les fauves, avec les conditions de vie que vous imaginez. Voilà, ils ont survécu, ils ont été retrouvés par les secours parce que les secours n'ont jamais cessé pendant ces 40 jours. Donc l'armée colombienne aidée d'indigènes connaissant les lieux. Indigène, c'est le terme consacré. Et justement, l'un des éléments d'explication, comment ces 4 enfants ont pu survivre 40 jours dans la jungle amazonienne, parce qu'eux-mêmes font partie d'une tribu indigène. Et en quelque sorte, pour les plus âgés, en tout cas, pour les aînés, avaient appris peut-être pas survivre, mais à vivre dans ce milieu. Voilà. Question à 2 balles, mais comment ils sont arrivés là, Zazou? Eh ben, en fait, c'est un petit avion qui transportait ces 4 enfants et 3 adultes qui s'est crashé dans la jungle. Les 3 adultes sont morts sur le coup. Les 4 enfants ont survécu et on les a retrouvés 40 jours après. C'est fou, hein? Incroyable. Ah, j'adore ça, moi. Ah, il est intéressant, Djokovic, parce que c'est un des meilleurs joueurs au monde. On parle de tennis, bien sûr, mais aussi parce qu'il a une image particulière. On aime, on n'aime pas. Hein. À Roland-Garros, contre Carlos Alcaraz, il a été sifflé, notamment quand les spectateurs ont estimé que sa petite pause durait trop longtemps. Voilà, c'est un joueur qui a une image particulière. Lui dit qu'il s'en fout, hein, que les sifflets, les critiques glissent sur lui. Force est de constater que c'est sans doute vrai, parce qu'il est au sommet de son art. Bien sûr qu'on fera une prédiction occitanien, bien sûr. Et il tente aujourd'hui face à Casper Ruud, le Norvégien, un 23e Grand Chelem, une 23e victoire dans un tournoi du Grand Chelem, ce qui le ferait rentrer dans l'histoire du tennis, puisque aucun homme, chez les femmes, le record est à 24, on verra ça tout à l'heure, aucun homme n'a jamais remporté 23 tournois du Grand Chelem, donc c'est quand même quelque chose. Voilà. Alors du coup, le problème, c'est que ça lui met une forme de pression. De la même manière, quand il avait tenté le grand chelem calendaire, le grand chelem dans une même année, eh bien la pression, je crois que c'était en finale de l'US Open, à vérifier, lui avait coûté la victoire. Et donc la pression qu'il y a eu par exemple sur Alcaraz face à Djokovic en demi-finale de Roland Garros, peut-être que la pression cette fois elle est sur Djokovic, même si moi personnellement je mets un petit billet sur sa victoire. On fera une prédiction tout à l'heure. Et puis bien sûr qu'on saluera, je suis content parce que c'était ma favorite, Swiatek, la polonaise qui a remporté un troisième titre à Roland Garros. Hier c'était contre, comment s'appelait la tchèque, Karolina Muchova, voilà. J'ai eu la chance de voir une partie de ce match, pas à Roland Garros mais à la maison, avec mon beau-papa et avec mon aîné Malo. Et en vrai c'était un beau match, accroché, superbe, très indécis. Et puis pourquoi je suis content, parce que pour en avoir parlé, là je me la raconte un petit peu avec Amélie Mauresmo et Justine Hénin l'année dernière à Roland Garros sur Twitch d'ailleurs, elles nous avaient expliqué toutes les deux que le tennis féminin manquait peut-être un petit peu de grandes championnes qui s'installaient, qui duraient comme ça. On avait beaucoup depuis un moment dans le tennis féminin des championnes qui émergeaient comme ça, qui gagnaient un grand chelem et qui disparaissaient après. Ainsi, dernières années, c'est un petit peu ça le tennis féminin. Et on manquait un petit peu d'une héroïne, d'une grande championne bref, le mot va me revenir, qu'on puisse suivre et dont on suit les exploits de tournoi en tournoi. Et bien cette grande championne, elle est là, Swiatek, voilà. S'identifier, merci Olivier Fustaillon, voilà. Et troisième Roland Garros, donc là c'est très très beau, donc c'est pour ça que c'était ma petite favorite hier, voilà. Manitou, je ne l'ai pas remercié. Merci Manitou 6900 pour le quatrième mois d'abonnement. Donc on verra ça, on se fera un petit horoscope bien sûr pour le plaisir, pour rigoler, pour dire des bêtises. Évidemment qu'on va revenir ce matin aussi sur l'attaque d'Annecy dont on a longuement parlé hier. Voilà. On va revenir sur l'enquête. Voilà. Qui est l'agresseur? Qui est l'attaquant? Pourquoi? Comment? Le comment, c'est à peu près le pourquoi. On a très peu d'éléments de réponse pour l'instant. Un choc et des questions et une relance sur le débat sur le droit d'asile en France et en Europe. Donc on fera le point sur l'enquête. Je vous rappellerai les éléments que nous avons sur l'agresseur qui, je le rappelle, a agressé avec un couteau à Annecy donc 4 enfants et 2 adultes. A priori les personnes agressées sont hors de danger, c'est ce qu'on disait hier dans la presse. Je reste prudent et on se penchera aussi sur ce débat sur l'asile en France et en Europe avec la parole donnée par le Journal du Dimanche à Jean-Pierre Chevènement qui estime que les mécanismes européens sont incohérents et qu'il faudrait revoir tout ça. Là c'est un petit coup de projecteur sur les troubles psychologiques qui peuvent frapper les exilés en raison de toutes les épreuves qu'ils doivent traverser, être contraints à l'exil, traverser les frontières, patienter en zone de transit, débarquer en terre inconnue, sombrer dans la précarité, parfois tenter de survivre. La plupart des réfugiés portent en eux quantité de mots invisibles et non décelés. Pourquoi? Comment? Que peut-on faire? Cet article du JDD est extrêmement intéressant. Le petit agenda du JDD qui est un truc que j'aime beaucoup, qui est tout en bas là, les événements à suivre cette semaine. J'ai vu deux petites choses qui m'intéressaient. D'abord le début du baccalauréat 2023 avec l'épreuve de philosophie. Quand je dis quoi, le début, non, les épreuves de spécialité ont déjà eu lieu, vous me direz, vous savez ça mieux que moi, j'ai un peu perdu le fil sur le bac avec la réforme, je ne sais plus où on en est. Et puis l'ouverture du salon Viva Tech à Paris. Je sais que c'est un salon important pour tous ceux qui suivent les nouveautés de la tech, notamment l'ami Pépé Garcia par exemple qui m'en parle beaucoup en ce moment. On ira voir si on trouve un petit article là-dessus sur internet parce que j'en ai pas trouvé dans la presse ce matin. Voilà, effectivement, vous l'avez noté, certains me l'ont dit. Comment ça, il n'y a pas de papier sur la Ligue des Champions? Non. Pff. Le footix que je suis, enfin, sûrement, il n'y a pas de club français en finale de la Ligue des Champions. C'est vrai que. Bon, oh. Pardon, il faut que je m'occupe de mon beau papa. Vous m'excusez un instant? Une histoire de taxi. Bougez pas. Hein. Voilà. Parce que, voilà. Je vais caler un taxi pour mon beau papa. Excusez-moi. Hein. Voilà. Ok, j'ai mis mon réveil pour ça en fait. Hop, excusez-moi, je m'étais mis un réveil. Hop, et j'envoie l'immatriculation du lit taxi. Toc. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, non, c'est bon. Excusez-moi, excusez-moi. Donc désolé pour la Ligue des Champions, là j'ai un petit peu. Voilà, j'ai un petit peu honte quelque part, j'ai pas réussi à m'y intéresser. Ouais, désolé, désolé, ouais, désolé. Mais puis l'article. Ah, tout va bien pour le taxi. Super. Et puis l'article que j'ai trouvé m'a pas fasciné. Peut-être que lundi, je trouverai un super article sur la Ligue des Champions. De même que, et je suis désolé, Volcan, pour les 24 heures du Mans, ben j'étais très déçu de pardon. Pardon, mais je vais pousser un coup de gueule. Hein? Je vais faire mon vieux machin là. J'étais très déçu des articles que j'ai trouvés ces derniers jours dans la presse quotidienne nationale sur les 24 heures du Mans. Ça n'est pas très très intéressant. Ça n'est pas très très bien. Allez, allez, je vais prendre toute la mauvaise foi dont je suis capable. C'était pas très très bien écrit. Voilà. Ça se raconte quand même les 24 heures du Mans. Bon. Alors, je ne désespère pas que demain, eh bien, on ait un bel article sur les 24 heures du Mans. Donc je suis ça, mais voilà, j'ai pas trouvé mon bonheur. Voilà. Merci Minotota pour le petit retour sur l'émission. Ça me plaît, je me suis régalé aussi. Je suis sûr que demain on aura un truc. Je suis sûr. Enfin, ça fait 3 jours que je dis ça. Estas la vidas. J'espère que tu vas bien et merci pour le 16e mois d'abonnement. On y va, on commence cette revue de presse? Est-ce que j'ai un yes?
Yeah, baby.
Ma préférée, celle-là. Est-ce que j'ai un yes? Ok, yes baby, let's go, c'est parti. Yes, bebou, me dit Néo avec. Très bien. Let's go, ok. Prenons des nouvelles de toutes les invitations que j'ai lancées pour les prochains jours auprès de mes amis streamers pour voir s'ils sont d'accord pour m'accompagner dans mes aventures de fou. À mon avis, ça dort. Là, c'est un petit peu tôt pour les streamers. Là. Ouais, 9h28, tout le monde dort. Ok, d'accord. On y va. Et on commence par la guerre en Ukraine. Plusieurs semaines qu'on nous dit que c'est imminent, hein, qu'il va y avoir une contre-offensive des forces ukrainiennes contre l'armée russe pour tenter de repousser les Russes, de les renvoyer en Russie. A priori, conditionnel, on va être très prudent, ça semblerait parti. Kiev, c'est la une de la dernière édition du Monde, lance sa contre-offensive sur plusieurs fronts. Je lis, les analystes militaires estiment que la contre-offensive ukrainienne, attendue depuis des semaines, vous voyez, je raconte pas que des conneries, a commencé. Les attaques se déploient sur plus de 1 000 km de front, notamment autour de Zaporijjia et de Bakhmout. Les troupes ukrainiennes testent les défenses russes au prix de lourdes pertes en hommes et en blindés. Et Kiev fait respecter le silence opérationnel, ça c'est très important sur sa stratégie, mais n'aurait pour l'heure engagé qu'un quart de ses brigades. Pourquoi on est très prudent? Parce qu'en fait, Kiev, l'Ukraine, l'armée ukrainienne ne communique absolument pas sur cette contre-offensive, voilà, pour justement entretenir le flou sur sa stratégie. Les combats ont lieu jour et nuit, et je lis l'article de l'envoyé spécial en Ukraine du Monde. Difficile. Il est difficile de définir avec précision la nouvelle étape d'une guerre lorsque les initiateurs d'une offensive gardent le silence, c'est ce que je vous disais, sur sa portée précise et réservent vraisemblablement des surprises. En même temps, quand tu lances une offensive ou une contre-offensive, tu ne publies pas les plans sur Internet, quoi. En dépit du silence opérationnel donc ordonné par Kiev, il semble bien, effectivement, que la guerre est entrée dans une nouvelle phase. Des affrontements ont été rapportés au fil de la semaine dans 3 secteurs principaux, le front de Zaporijjia, dans le sud, le front sud de la province de Donetsk, dans le Donbass, et les flancs nord et sud de Bakhmout. Certaines de ces attaques peuvent être destinées à tester les lignes de défense russes, extrêmement fortifiées. Ça, on le verra tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant. Hein, les Russes ont fortifié, mais de fou, leurs lignes de défense. Ça va être très compliqué de les percer. En revanche, certaines attaques peuvent avoir pour seul objectif de tromper l'ennemi. Alors effectivement, silence radio. La règle énoncée le 4 juin reste respectée. Quelle règle? Le 4 juin, le ministère de la Défense a diffusé une courte vidéo. J'avais pas compris à l'époque c'était quoi cette vidéo, je la trouvais très étrange. Une courte vidéo montrant 7 soldats ukrainiens mettant un par un, silencieusement, le doigt sur leur bouche, tandis qu'une voix off murmurait chut, chut, chut. C'est Pouille, merci pour le message. L'état-major indiquait que la planification aime le silence. Ce chut, chut, chut. Et ces soldats, hommes et femmes, ukrainiens, ukrainiennes, mettant comme ça le doigt sur leur bouche, c'était pour indiquer que, eh bien, il n'y aurait pas de commentaire sur ce qui allait se passer militairement dans les prochains jours. Et donc, ça donne ça, des attaques tous azimuts actuellement pour tester les défenses russes. Zoomons, les amis, ensemble sur cet article du Monde. Vous avez vu, très beau geste. Ça, c'est des heures de répétition. Ne répétez pas ce geste à la maison sans entraînement. Ça peut être très dangereux pour l'ordinateur qui est devant vous et pour votre œil aussi si vous êtes vraiment très maladroit. Lisons cet article où on a cette offensive ukrainienne. Si l'issue de la contre-offensive... Excusez-moi, je ris. Il y a QIU qui dit « Je vais bientôt sortir de ma chambre et retrouver pour le petit-déj mon père devant BFM. Ça va changer d'un coup le style d'info. » Bon, bah, c'est deux salles, deux ambiances, hein. Si l'issue de la contre-offensive n'est pas connue, les troupes de Kiev semblent enregistrer des pertes significatives lors de leurs premières attaques. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux russes, des dizaines de blindés ukrainiens ont été détruits ces derniers jours dans le sud du pays. Visés par quoi? Par des tirs d'artillerie ou explosions sur des mines. Parmi ces blindés détruits, des chars lourds occidentaux, vous savez, ceux que les occidentaux ont fournis, des Léopard 2, de mémoire... de conception allemande, des chars légers français AMX-10RC et des véhicules de transport des troupes américains Bradley, c'est ce qui a été identifié sur les images. Soyland, merci pour le 20e mois d'abonnement. Des pertes douloureuses pour les Ukrainiens, mais normales lorsqu'on s'attaque à une ligne de défense fortifiée, explique-t-on dans les états-majors, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. De fait, les Russes ont érigé, dans la région de Zaporijia notamment, des dispositifs donc de défense fortifiée sur 30 km de profondeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des dispositifs de défense fortifiée sur 30 km de profondeur. Sur 30 km de profondeur, vous avez des tranchées. Vous avez des champs de mines. Vous avez des abris bétonnés. Vous avez des obstacles anti-chars appelés dents de dragon. Les forces russes sont installées en défensive sur 6 lignes successives. Vous avez 6 lignes successives. Hein, de défense russe, c'est ce qu'un haut gradé français explique, quoi. Les Russes donc, qui se sont organisés ces derniers mois, il y a Oshran qui disait la ligne Maginot, c'est mieux que la ligne Maginot. Je ne vous ai pas pris l'article. Tiens, bah, du coup, vous parlez de la ligne Maginot, bah, je vous lis ce passage que je n'avais pas prévu de vous mettre. Et donc, cette énorme succession de lignes de défense évoque non pas la ligne Maginot, mais la ligne Fabergé. En référence à la qualité et la précision des œufs, vous savez, ouvragés offerts au tsar, et c'est les œufs Fabergé, là. Donc là, on parle d'une ligne Fabergé, en opposition justement à la fameuse ligne Maginot française, hein, qui n'avait absolument pas arrêté les Allemands en 1940. Je pense que tout le monde a la ref historique. Hein, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième, la France avait construit une ligne fortifiée, la ligne Maginot, hein, à la frontière sur une partie de la frontière entre l'Allemagne et la France, en disant, voilà, ils ne passeront pas. Hein. They shall not pass. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Ils ont fait le tour. Ils ont contourné. Ça n'a servi absolument à rien. Voilà. Et donc, c'est pour ça que certains sont un peu sceptiques sur cette ligne de défense russe. Mais là, on parle non pas d'une ligne Maginot, mais d'une ligne Fabergé, vu tellement c'est bien fait cette fois, quoi. Il y a eu Gravis qui dit les Allemands étaient passés à côté, la ligne Maginot en elle-même était très bien tenue. Oui, bah oui, mais une ligne de défense qui est conçue de telle manière qu'elle puisse être contournée, on est d'accord que ça sert à rien. Il y a Olivier qui engueule les Belges, qui dit c'est à cause des Belges, ils n'avaient pas voulu nous laisser terminer cette fortification. Putain, les Belges, j'en étais sûr. Ah, les Belges! Je ne savais pas ça. Putain, je suis en colère! Ah, c'est les Belges! Putain, c'est la faute des Belges! Si on a été envahi? Non! Putain, mais moi qui aimais bien les Belges. Il y a les Belges ici, vous saviez que les Belges vous avaient empêché de finir notre ligne Maginot? Nom de Dieu! Alors là, toujours les mêmes, dit un lavabo tout beau. Je factor en flure de Jacques Brel. Serial Drawer fait moi, je suis belge. C'est fou ça. Bon, ça, je savais pas ça. On va brûler le tableau de Tintin obligé. Non, non, touchez pas au tableau de Tintin. Ils sont passés par les Ardennes qui étaient réputées infranchissables. Bon, bref, tout ça avait été super bien pensé. Quand même, voilà. C'est drôle ça. C'est incroyable. Ça me coupe la chic, comme dit Amilor. Ok. Donc, là, la ligne de défense russe semble un peu plus efficiente que notre ligne Maginot. Je lis, les Russes font preuve d'un degré de cohérence inhabituel pour repousser par ailleurs les attaques ukrainiennes. Alors qu'elles avaient jusqu'ici montré des limites dans le combat inter-armes, les troupes de Moscou semblent désormais maintenant combiner artillerie. Donc c'est pas que les défenses passives. Hein. Soutien aérien, brouillage électronique, usage de drones avec une relative efficacité, ce qui expliquerait le nombre d'images de blindés ukrainiens détruits. Les Ukrainiens sont mieux formés qu'au début de la guerre, mais les Russes sont aussi sortis de leur torpeur initiale, explique une source militaire. Alors, pour le moment, difficile de deviner l'issue de ces manœuvres mécanisées, de cette contre-attaque, notamment avec des chars contre-attaque ukrainienne. À écouter les états-majors, les Ukrainiens n'auraient pour l'instant engagé que 3 brigades sur les 12 qu'ils ont constituées pour mener cette contre-offensive. Autant dire que Kiev dispose encore d'une marge de manœuvre importante et n'a pas porté son principal effort. Par ailleurs, c'est la fin de l'article de Cédric Pietralunga, envoyé spécial du Monde en Ukraine. Les Ukrainiens disposent de matériel occidentaux plus performants toujours que ceux des Russes. L'avantage serait significatif pour mener des opérations de nuit notamment. Les blindés fournis par les alliés de Kiev disposeraient en effet de systèmes de vision nocturne qui sont absents des modèles russes, ce qui devrait inciter les Ukrainiens à les utiliser une fois le jour tombé, lorsque les drones russes ne peuvent plus voler et que l'artillerie est aveugle. Les prochaines nuits s'annoncent cruciales à cet égard. Voilà pour ce point très 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 bien fait du Monde sur la guerre en Ukraine et de la contre-offensive ukrainienne. Lumière Soleil, merci pour les bits. Mayence, merci pour le 4e mois d'abonnement. Bonjour à ceux qui arrivent de chez Pépin. Non, pas mal cet article, hein. Bien fait. Hein. Oh là, je ne suis pas spécialiste des choses militaires. Marvel Snap, pas officiel. Si tu devais répondre à un groupe d'enfants ou de personnes ne s'intéressant pas à l'actualité, la question pourquoi la Russie a-t-elle tant de mal à battre l'Ukraine ? Bah, je pars sur un terrain que je ne maîtrise pas. Je suis pas un spécialiste, mais qu'est-ce que je dirais ? Bon, d'abord, quid de la motivation des soldats russes qui, quoi qu'on ait pu leur dire à un moment, ont pris conscience peut-être qu'ils n'étaient pas une force de libération, mais bien une force d'envahissement et d'occupation. Donc, quid de la motivation de ces soldats russes face à la motivation des forces ukrainiennes qui, eux, sont là pour défendre leur pays, leur territoire, leurs femmes, leurs parents, leurs enfants. Donc, une histoire de motivation. Après, il apparaît sans doute que les stratèges russes ont sûrement sous-estimé la capacité de résistance des Ukrainiens, voilà, et la qualité de leur tactique aussi. Et ça renvoie à un autre défaut de l'assaillant. On décrit à tort ou à raison l'armée russe comme une armée qui est inscrite sur des vieux schémas militaires, voilà, et qui n'est pas adaptée à une guerre plus moderne, ce qu'ils sont manifestement en train de corriger. Après, évidemment, élément essentiel, sinon décisif, le soutien financier et militaire des Occidentaux aux forces ukrainiennes. Sans être un spécialiste, je pense que sans ce soutien, cette guerre serait terminée depuis très longtemps. Bon, voilà, avec ces quelques petits éléments-là, je pense qu'on a l'essentiel du pourquoi, du comment, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la question. Je n'en sais que ce que les médias, j'essaie de lire les médias de qualité, nous en ont raconté. Il y a plein d'autres choses, effectivement, mais vous avez raison, Tony Truant. Contre toute attente, les Russes sont tombés sur un président s'affirmant comme un réel leader. Hein. Le président ukrainien s'est réveillé dans cette crise. Il ne pensait pas que l'Europe allait autant aider l'Ukraine, paradoxe, c'est vrai. Il y a un souci d'état-major de stratégie. Niglos a raison. Manque de renseignements au début de la guerre. Ouais. Tout ça va un peu dans le même sens. Merci Lumière Soleil pour les bits. Allez, l'autre papier que je voulais vous lire ce matin, c'est cette question que je trouve extrêmement intéressante. C'est un débat qui va arriver là à l'Assemblée. Il y a une proposition de loi qui arrive. Est-ce qu'il faut contraindre les généralistes, je crois même les médecins d'une façon générale, d'après le texte de la proposition de loi qu'on va évoquer, quant à leur installation, c'est-à-dire empêcher les médecins de s'installer dans les zones où il y a déjà plein de médecins et au contraire les inciter à aller s'installer dans les zones où on manque de médecins, ce qu'on appelle en France les déserts médicaux. Hein. Vous connaissez la crise de l'hôpital public, il y a aussi une crise de la médecine libérale avec un nombre insuffisant de médecins et des zones qui ne sont pas pourvues en médecins, ce qui donne des mois et des mois et des mois et des mois d'attente pour avoir un rendez-vous chez le généraliste ou chez les spécialistes. Pourquoi on en parle ce matin ? Parce qu'il y a une proposition de loi qui, a priori, arrive la semaine prochaine à l'Assemblée. Des députés, donc ça ne vient pas du gouvernement, hein, ça vient de députés, on va voir qui, veulent limiter la liberté d'installation des praticiens, mesure contestée par qui ? Par les médecins, par les syndicats de médecins, je vois un commentaire de Gébonche là, qui semble intéressant, mais aussi par le ministère de la Santé. Ah bah oui, c'est ça, c'est tout le débat. Voilà, Gébanche sait très bien de quoi on parle et est concerné manifestement. Et c'est parti pour le débat, je lis ton commentaire. Gébanche, je dois me réagir sur les propos de ces lois coercitives qui imposent. Ces lois concernent les jeunes médecins, ceux qui viennent de passer 6 ans d'études et maintenant minimum 4 ans en tant qu'interne. À la fin de ces 4 ans, quand à 30 ans environ, on nous force, peu importe conjoint ou enfant, à aller à différents endroits sans qu'on ait notre mot à dire, c'est plutôt désespérant. Donc là, on a effectivement la position des médecins, notamment des jeunes médecins. Mais lisons l'article et on aura ce débat ensemble. On fera même un sondage, je pense. Oh là là, Max 66 Fly 1989 qui est en train de revisiter la guerre en Ukraine là, avec tous les éléments de tout le wording de Poutine là. Ah ouais, on a quelqu'un qui a copié-collé tous les mots de Vladimir Poutine pour analyser la guerre en Russie là. Oh, mais je suis en train de voir tes commentaires d'hier sur l'immigration. Ouïouïouïouïouï, mon champion. Ah ouais, bah c'est bien ton historique. Il est bien ton historique. Wow. C'était chaud quand même. Ok. Non mais c'est parfois je tombe sur un petit compte comme ça, je me fais plaisir, je remonte dans l'historique là. Mais tu te... C'est plus tu restes avec nous et plus tu te... L'idée de ce stream, c'est plutôt d'installer les conditions pour que malgré nos différences d'opinion, on arrive à discuter de façon un peu chill. Mais toi, plus tu avances dans le temps et plus tu es un peu hardcore, quoi. Ok. Ça va. Sinon, ça va bien ? Sinon, ça va bien ? Ok. Bon. Bon, ok. Bon. Ouais, on va... Ouais. Comment dire ? Fais attention à tes propos quand même. Voilà. Ça sent le petit ban provisoire à venir, là. Je pense que les modos t'auront un petit peu à l'œil. Attention à tes propos quand même. Max Fly, il est trop chaud. C'est dimanche matin. Il a passé une mauvaise nuit. Et il écrit, c'est toi qui es infragile. C'est moi. C'est pas moi qui suis chaud. N'inverse pas. Alors, faut enlever le S parce que c'est un impératif en fait. Donc, il faut enlever le S. N'inverse pas le rôle. On peut pas discuter avec une armée de wokistes. Voy. C'est chaud quand même. Mauvaise nuit, mauvais week-end. Allez, on donne sa chance quand même au produit. Max66 Fly, essaie de faire un petit effort. Essaie de rester avec nous là pour échanger de façon un peu chill. Est-ce que tu crois qu'on peut. Est-ce que tu peux essayer de t'apaiser ? Voilà, on n'est pas trop au bandef ici, on essaie de tendre la main. Voilà. Est-ce que tu peux faire un effort ? Tu peux faire un effort ? Voilà. Ouais, je sais. Arsène Clic-Clic qui dit tu es très optimiste. Oui, oui, c'est bah oui, c'est ce que je sais, c'est ce que je suis. J'essaye, ouais, j'essaye. Ouais. Alors, je pense que c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité, quoi. C'est juste que voilà, une grille de lecture qui est un peu particulière, quand même. Bon, allez. C'est ça le paradoxe. Moi, je suis content d'être entouré de gens qui s'intéressent à l'actualité, mais même, et parfois, même quand il y a des discours que je trouve un peu totalement hors des clous, je me dis, bah, essayons de discuter quand même, quoi. Je parle dans le vent, ça. Ouais, mais j'aime bien ça, j'aime bien. Vous êtes beaucoup trop bienveillant pour cette plateforme. Ouais, peut-être, 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 peut-être. Parfois, ça me joue des tours. Mais on essaye, on essaye. On essaye. Allez, on continue. Alors, les médecins. Donc, de quoi on parle? Des députés veulent durcir l'accès aux territoires les mieux dotés en praticiens. Hein. Les syndicats et le ministre de la Santé, ça c'est intéressant, le gouvernement s'y oppose. Médecins, coup de pression sur la liberté d'installation. Cette fois, est-ce que c'est la bonne? Parce que c'est pas la première fois que ce débat est lancé dans notre pays. L'idée de forcer les médecins à s'installer dans des déserts médicaux en les empêchant de le faire dans les territoires les mieux dotés fait son retour dans le débat public à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi à l'Assemblée. Proposition de loi, c'est quand ça vient donc des députés. Projet de loi, c'est quand ça vient du gouvernement. Proposition de loi qui arrive en début de semaine prochaine, là, à l'Assemblée, donc c'est le moment d'en parler. Le député socialiste Guillaume Garot, c'est lui qui est à l'origine de cette initiative, a réuni plus de 200 collègues de différents groupes autour d'un texte visant à lutter contre les déserts médicaux. Hein, c'est ça l'objectif. Dans l'immédiat, ces parlementaires prévoient de défendre l'instauration d'une régulation à l'installation de médecins avec un amendement dans une autre proposition de loi qui, donc il y a un amendement, et il y a déjà une proposition de loi qui entend déjà interdire l'intérim en début de carrière et imposer le rattachement à une communauté professionnelle territoriale de santé. Il y a un masconome qui me dit que Guillaume Garot est l'ancien maire de Laval. Concrètement, sur le littoral ouest, sur la Côte d'Azur, dans d'autres coins de France, littéralement, relativement bien pourvu. Pour chaque spécialité, donc je savais bien que c'était pas que le généraliste. Merci NK Temez pour le message. Pour chaque spécialité, un praticien devrait remplacer un partant, retraite, déménagement, et obtenir l'accord de l'Agence régionale de santé. Donc on ne peut plus s'installer où on le veut. Les syndicats de médecins voient rouge au nom de la liberté. Hein, c'est quelqu'un qui semblait être en fin d'études de médecine, nous le disait tout à l'heure, au nom de la liberté, au nom aussi, l'autre argument, c'est bah, si ce métier devient aussi compliqué, on ne peut pas s'installer où on veut, s'installer pour travailler, mais aussi pour vivre, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Quand on dit à un médecin qu'il ne peut pas s'installer où il veut, c'est qu'il ne peut pas s'installer où il veut pour travailler, mais aussi pour vivre, et éventuellement avec sa famille, donc c'est ça aussi. Donc les syndicats médecins disent non, le ministère de la Santé dit non, d'ailleurs pour les mêmes raisons. Voilà. Je donne la parole au syndicat de médecins, ça ne marchera pas, il y aura un déclin des vocations, c'est une évidence qu'une telle mesure ne donnera pas envie de devenir médecin et risquerait d'accentuer la pénurie. Morphine a raison. Pour les profs, ben les profs ils ont déjà ça. Mais c'est vrai, vous avez raison, je n'avais pas pensé à ça. Paul Clafoutis, genre, comme pour les profs, personne ne se pose la question, mais les profs, c'est pareil, ils ont pas le choix de l'installation. Les profs, au début de leur carrière, on leur dit où aller, souvent dans les zones, dans les quartiers défavorisés, dans certaines régions, et puis ce n'est qu'au bout de quelques années, effectivement, ouais, vous avez raison, qu'en accumulant, je crois qu'il y a un système de points, ils peuvent, et ça prend du temps, s'installer où ils le souhaitent et se rapprocher parfois de leur famille, de leurs racines familiales. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Ah ouais, j'avais pas pensé à cet argument. Cet argument des profs n'est pas dans l'article. Ronnie Fleur de Paix, c'est le même problème pour les enseignants et tout le monde s'en fout. Lol, bah nous, on s'en fout pas, on en parle. D'ailleurs, ah oui. Alors, et à ceux qui disent ben, les profs font exactement la même chose, il y a O. Shrine O qui dit eh ben, résultat, on trouve plus de profs. Alors, ce n'est pas la seule raison. Conditions de travail, salaire, mais peut-être effectivement que le fait de ne pas pouvoir travailler où on veut, joue aussi dans cette équation où en France, on ne trouve pas non plus de professeurs. Ouais. Je vous lis, hein, parce que c'est très intéressant. Alors, d'autres me prennent l'exemple des militaires, des gendarmes. On va rappeler quand même que c'est vrai aussi pour les profs. Là, on parle du coup de service public, de fonctionnaires ou de personnes travaillant pour l'État. Alors que pour les médecins, on parle de profession libérale, puisque là, on parle des généralistes et des spécialistes. Libéral, normalement, ils doivent. La philosophie, c'est de pouvoir à peu près faire ce qu'ils veulent, quoi. Je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous lis. Hein, vous êtes plusieurs à souligner comme Nez Vive, les profs sont fonctionnaires, pas les médecins. Kalachi, perso, ça m'a freiné pour être prof, donc ça enlève aussi des vocations. Ce genre de système, là on revient à la liberté d'installation des médecins, nous dit la loi 85, est en place au Québec et ça semble fonctionner. C'est pas mal ça. J'aime bien ça, moi. Riyad nous dit, hey, Samuel, idée peut-être idiote, moi je trouve pas, mais proposer une réduction fiscale pour ceux et celles qui s'installent dans les déserts médicaux, est-ce que c'est possible? Alors, il y a un principe qui est celui de l'égalité de tous devant l'impôt, mais je pense que c'est jouable. Inutile, possible, est-ce que c'est une solution qui peut convenir à tout le monde? On n'impose donc rien à personne, mais on propose un gros avantage financier pour ceux et celles qui s'y installent. C'est pas inintéressant, ça. Moi, je trouve ça pas mal. Je vous lis, je vous lis. Hein. Alors vous êtes plusieurs à nous rappeler que l'installation des pharmaciens est déjà réglementée depuis longtemps. On va faire un sondage là-dessus. Zazou. Les médecins ne sont pas fonctionnaires, donc je vois pas pourquoi l'État devrait leur faire des trucs du genre. Ou alors on leur donne le statut de fonctionnaire et on peut faire ce genre de choses. Soit on donne des avantages pour aller dans les zones où il y a moins de médecins. Alors vous êtes plusieurs aussi à évoquer le fait que les médecins en grande partie sont, je cite, payés par l'État, payés par la Sécu, hein, via le remboursement des consultations. Il y a déjà des aides financières, disent certains aussi, pour certains médecins qui s'installent dans les zones en tension. Alors peut-être que ce n'est pas suffisant. Si aujourd'hui les déserts médicaux sont toujours là, peut-être que ces incitations financières et fiscales ne sont pas suffisantes, même si ça existe. En tout cas, c'est un débat qui vous inspire. Je vois plein, 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 plein de commentaires. Certains disent pas coercition, incitation plutôt. Faire 10 ans d'études vraiment difficiles pour se faire imposer sa vie par l'État, dit Sir Max. Déjà avec le système actuel, j'ai quitté la profession de médecin parce que c'est insoutenable les rythmes qu'on nous demande et la dévalorisation permanente de notre métier. Alors, le numerus clausus, donc. Qui maintenant est terminé, mais le problème c'est que la fin du numerus clausus, on en verra les effets que dans une dizaine d'années. Hein. Et justement, au nom pas lui, écrit à ce propos, après le problème des déserts médicaux, sont dus au numerus clausus, en grande partie c'est vrai, hein, mais le numerus clausus est une demande des médecins à la base pour garder le contrôle sur la valorisation de leur métier. Ça n'est pas tout à fait faux ce que tu dis. Bon petit déj, Julot. Oh, le débat, le débat. Oui, c'est vrai. Zapino revient sur le numerus clausus et puis développe le sujet. Vous voyez, il y a plein d'infos intéressantes là dans ce chat, bon, comme d'hab. Zapino écrit: il y a aussi un problème de démographie médicale. 95% de l'Île-de-France est une zone sous-dense en médecins. Il va y avoir environ 30 ans avant d'avoir un nombre suffisant de médecins pour pouvoir mailler le territoire. 30 ans. Et puis, j'avais oublié cet argument, mais oui, il y a aussi une profession médicale qui travaille moins qu'avant, plutôt 40 heures en moyenne versus 70 heures auparavant, avec des médecins, des jeunes médecins qui ont d'autres priorités que travailler tout le temps à Donf, quoi, qui ont d'autres familles, etc. Le numerus clausus est aussi mis en place par l'État pour diminuer le nombre de prescripteurs et le trou de la sécurité sociale. Le numerus clausus était souhaité par une partie des médecins, tu as raison, mais aussi par l'État pour faire des économies. Moins de médecins, moins d'actes, moins de remboursements. Bon, on a vu ce que ça a donné, quoi. Continuons l'article. Donc, bon, c'est sur deux pages, ça vous intéresse. D'ailleurs, c'est, voilà, il n'y a pas tout. Hein, la preuve, c'est qu'il y a plein d'arguments qui ne sont pas évoqués dans cet article. Mais il y a deux pages dans le Parisien. Voilà. Et on a une jeune praticienne de 29 ans qui dit à l'argument de ses confrères « Ah oui, mais dans ces cas-là, on va arrêter ce métier ou on ne va pas se lancer dans ses études pour devenir médecin. » Et cette jeune femme qui s'appelle Mathilde dit « J'ose espérer que lorsqu'on s'engage dans un tel cursus, c'est aussi par passion et pour le côté humain. » Voilà. En tout cas, ça arrive à l'Assemblée. Et comme vous savez que même si ce n'est pas une proposition de loi qui vient du gouvernement, hein, puisque ce serait un projet de loi, et donc ce n'est pas souhaité a priori par la majorité, vu la composition de l'Assemblée, on peut estimer que si eh bien un certain nombre de députés souhaitent ce texte, notamment des députés de la NUP, de la gauche, voire de LR, voire des voix de députés RN qui viendraient sur ce texte, et une partie de députés Renaissance de la majorité, on pourrait voir cette proposition de loi votée à l'Assemblée. Ça devrait se passer la semaine prochaine. Voilà. Il y a 424 ppm qui dit c'est pas la majorité du coup. Oui, mais attention, là on n'est pas sur une motion de censure, c'est-à-dire qu'il suffit d'une majorité relative. Hein. Pour qu'une proposition de loi, pour qu'un projet de loi passe à l'Assemblée, il ne faut pas une majorité absolue, hein. Il faut une majorité relative, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement qu'il y ait plus de voix pour que contre. Si au moment, à la minute du vote, il y a plus de députés dans l'hémicycle pour voter un texte que de contre, même si il y avait plein de contre qui étaient partis à la buvette, bon ben la loi elle passe. Hein. Voilà, c'est pas une majorité absolue, c'est une majorité relative. Et vu la composition de l'hémicycle, tout est possible actuellement. Quoi. On fait un sondage ? Il est où mon sondage ? Je vais vous demander si vous souhaitez effectivement qu'on limite la liberté d'installation des médecins en France, en fait. Nouveau sondage. Doit-on limiter la liberté limiter la liberté d'installation des médecins? C'est clair, hein? Oui, après, il y a le Sénat, bien sûr. Je ne vais pas vous refaire un cours de droit constitutionnel à chaque fois qu'on parle d'une proposition de loi, sinon on ne va pas y arriver. Après, il y a la navette parlementaire, la commission mixte paritaire, enfin bon. Les décrets d'application. Doit-on limiter la liberté d'installation des médecins ? Oui, non, je ne sais pas. C'est parti, deux minutes. Non, on ne peut pas limiter la liberté des médecins, mais vote plutôt. C'est parti. Hop, là, voilà le résultat. Le sondage est dans le chat. Voilà, votez. Ça va être intéressant d'avoir une petite tendance là-dessus. Et je ne mets pas en début de carrière parce que je n'ai pas l'impression que la proposition de loi ne parle que des jeunes médecins. Alors, le résultat est intéressant. Hein, voilà, Panda Anatomy confirme, ce n'est pas que pour le début de carrière. Un médecin d'une cinquantaine d'années qui serait dans une région et qui voudrait s'installer sur la Côte d'Azur, par exemple, si cette proposition de loi passait, ben, ce serait compliqué. Voilà. Il faudrait qu'il puisse remplacer un médecin partant à la retraite ou changeant de région. Ce n'est pas que pour les jeunes médecins, cette proposition de loi. Voici le sondage, les amis. Je vous le montre. Il reste une trentaine de secondes. Vous êtes 47%. De vous là ce matin qui ont ayant participé à ce vote, 48% a estimé que oui, hein, pour mettre fin aux déserts médicaux dans notre pays, pour mieux soigner la population, eh bien, on doit pouvoir limiter la liberté d'installation des médecins. Vous êtes 37% à souhaiter le contraire, qu'on ne limite pas cette liberté d'installation, et 16% je ne sais pas. Donc vous avez une courte majorité relative, on en parlait justement. Si vous étiez député, si vous étiez à l'Assemblée, si on avait fait un vote là, eh bien la proposition de loi aurait été votée. Il n'y a pas besoin de majorité absolue. Très bonne illustration. Nous sommes des champions. Voilà. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec quoi ? De quoi je vous parle ? Ah ouais, cette histoire de fou. Sur les enfants qu'on a retrouvés. On l'a évoqué, on l'a vécu, dirais-je même, hier matin déjà, quand quelqu'un dans le chat m'a dit « ça y est, Sam, on a retrouvé les enfants en Amazonie ». J'avoue que je pense que peu de gens y croyaient, l'espéraient. Et on a un bel article de deux pages, je vous ai mis une petite partie de l'article du Parisien, sur cette histoire qui est complètement folle. L'incroyable survie des quatre enfants en pleine jungle. Donc on parle de la jungle amazonienne, c'est une histoire de malade comme le dit Tigus. Ils sont âgés de 1 an, de 4 ans, de 9 ans, de 13 ans. Ils ont été retrouvés vivants après avoir passé 40 jours dans la jungle amazonienne, rescapés du crash du petit avion dans lequel ils voyageaient. Ils étaient avec 3 adultes qui ont trouvé la mort, eux, dans le crash. 40 jours, c'est complètement fou. Hier donc on avait cette bonne nouvelle et maintenant on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé. Christine a eu 1 an, c'était ce bébé, petite fille parmi ses 4 enfants, 1 an, donc elle a fêté son anniversaire entre guillemets, au milieu de la jungle amazonienne de Colombie. Secouru vendredi, ce bébé est une miraculée. Aux côtés de ses frères et de ses sœurs, elle a été retrouvée par les secouristes de l'armée après avoir survécu 40 jours sans assistance. La vie de ces jeunes enfants a basculé le 1er mai lorsqu'ils ont été victimes du crash de l'avion à bord duquel ils se trouvaient. Les 3 adultes qui les accompagnaient, dont leur mère, sont décédés sur le coup. Les secours ont rapidement identifié leur corps. Mais en pleine jungle, Leslie, 13 ans, Solini, 9 ans, Tienne Noriel, 4 ans et Christine, 1 an, restaient introuvables. Leur sort suscitait l'inquiétude de tout un pays. Des kits de survie avaient été largué par l'armée colombienne au-dessus de la jungle le week-end du 20 mai, ainsi que des milliers de tracts pour leur indiquer comment contacter éventuellement les secours. C'est un véritable miracle. Bon, je pense qu'on a tous conscience, mais c'est un spécialiste qui le dit. 40 jours dans la jungle amazonienne. Hier, on évoquait les insectes, les fauves, Jaguar, Puma, disait l'article, je crois, qui traîne dans la région. Véritable miracle, 40 jours dans la jungle amazonienne, c'est une grosse performance, confirme Denis Tribodeau, qui organise des stages de survie depuis près de 20 ans. Au bout de quelques jours, on a faim, on se déshydrate, il faut essayer de contrer les assauts de la nature, que j'évoquais à l'instant, y compris des plus petits, les puces, les moustiques, il y a tout un tas d'agressions qui peuvent tuer à petit feu. Mais c'est surtout leur éducation, l'éducation de ces enfants, et on l'évoquait déjà hier, qui leur a sans doute permis de survivre sur une durée aussi longue, parce que les quatre enfants sont issus d'un groupe indigène, Witoto, peuple autochtone installé dans le sud-est de la Colombie et le nord du Pérou, un peuple autochtone indigène qui vit en collectivité dans la jungle, des peuples qui ont l'habitude de se débrouiller, explique Robin Boclet-Veller, qui est anthropologue. Pour se nourrir, ils ont fait, donc ces enfants, appel au savoir traditionnel transmis par leurs aînés. Dès tout petits, les jeunes savent différencier les fruits, les choses à ne pas toucher. Ils ont une large connaissance des choses qui sont dangereuses. Ils savent reconnaître ce qui est comestible dès l'âge de 3-4 ans, nous dit-on. Selon lui, des enfants, l'anthropologue, issus d'un milieu citadin, n'auraient sans doute pas survécu dans les mêmes circonstances. Ils avaient, les enfants dont on parle ici, enroulé leurs pieds dans des bandelettes de tissu pour éviter les blessures, car c'est souvent les pieds que l'on blesse dans la jungle. Selon la famille des enfants, c'est la grande sœur de 13 ans, Leslie, qui a pu jouer un rôle capital dans la survie des plus jeunes. Elle s'occupait habituellement toujours de ses frères et sœurs lorsque leur mère travaillait. Elle leur donnait à manger de la farine, du pain, du manioc, des fruits, de la brousse, a notamment confié sa grand-mère. Une fille de 13 ans en Amazonie a déjà énormément de savoir sur l'environnement, nous explique l'anthropologue. Elle a donc réussi à partager cette expérience avec les plus petits. Elle a dû être un soutien moral énorme. L'anthropologue explique que cela repose sur la grande solidarité entre les enfants chez ces peuples indigènes qui sont des co-éducateurs aux côtés des parents. Robin Boclet-Veller reste toutefois impressionné par le fait que le bébé, la très jeune Christine, un an, et pu survivre. Un bébé n'a pas autant de ressources qu'un adulte. Nous, on peut survivre 3 semaines avec de l'eau et du sucre. Au-delà, il faut du gras. Un bébé n'a pas ses réserves. Les enfants ont dû prendre soin d'elle en permanence. C'est beau, hein ? Après avoir été retrouvés par les services de secours de l'armée colombienne, qui étaient aidés par des indigènes justement, les enfants ont été transférés dans la foulée par avion médicalisé vers Bogota. Alors attention, parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur leur état de santé. Ils sont vivants, mais dans quel état ? Ils sont faibles. Laissons les médecins faire leur pronostic, a commenté le président colombien, sans donner plus de détails sur leur état de santé. Il y a des images, voilà. Il y a des médias qui ont diffusé des photos des sauveteurs avec les visages des enfants. Moi, je trouve pas ça top. Donc là, je préfère vous montrer cette image avec les photos des 4 enfants ici floutés dans les bras du militaire au second plan ici, qui est debout. Je sais pas si vous voyez, mais il y a le petit bébé d'un an, la petite fille. C'est fou, quoi. Voilà. Vous êtes très nombreux à évoquer la récupération par Netflix ou autre de cette histoire pour en faire une série. C'est vrai que l'histoire est complètement dingue. Je vous lis un petit peu et puis on enchaîne. On va parler un petit peu de Roland Garros. Ouais. Beaucoup de superlatifs dans le chat et je comprends, hein, c'est complètement dingue, c'est fou, c'est incroyable. Même en connaissant la jungle, c'est quand même des champions. Pop hip hop, 40 jours, c'est complètement fou, quoi. Benito qui dit moi à 8 ans je savais toujours pas faire mes lacets. Des nouvelles de la santé des enfants selon France Info, me dit Kletos Bright, les enfants sont très affaiblis et ne peuvent plus manger normalement, mais c'est en train de s'améliorer. Même si c'était beaucoup mieux préparé que beaucoup d'autres à cette situation, écrit Pépé Bébé 54, ce sont quand même des enfants et c'est juste hallucinant. David me demande si je vais regarder la finale homme de Roland Garros, Ruud Djokovic. Je suis pas un grand spectateur de sport à la télé, mais ça, je crois que ça se regarde, c'est sûr, quoi. Je vais regarder ça avec les enfants, je pense. Hélène, elle bosse aujourd'hui. C'est fou, hein. Il y a Kletos Bly qui demande si 4 streamers pourraient survivre seuls dans la jungle durant 40 jours. Je ne sais pas. Certains peut-être. Justement, parlons-en. Quelqu'un me... Inox peut-être, ouais, exactement. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Quelqu'un me... Vous êtes plusieurs à me dire Inox peut-être, ouais. Ouais, Inox peut-être, effectivement. Inox qui est en train de s'entraîner là pour l'Everest. Je crois qu'il vient de réussir l'ascension d'un sommet des Alpes, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Moi, j'ai cru voir quelque chose à ce propos. J'ai vu une image qui était assez impressionnante. Tiens, je vais aller voir le compte d'Inox, tiens, d'ailleurs, pour voir s'il en parle. C'est le Mont Blanc, c'est ça. J'ai vu une image de fou, quoi. Là, il est en entraînement pendant un an, hein. C'est un truc de malade. Hein. Est-ce qu'il a mis l'image? Non, c'est la dent du géant. Sa prochaine étape, c'est le Mont Blanc. Regardez. Hop. Dent du géant, 4013 mètres, Alpes. Next step, Mont Blanc, 4807 mètres. Hop, putain, c'est incroyable. Inox est en rouge là. Bon, je ne incapable de faire ça. Je serais incapable de faire ça. La dinguerie, quoi. Regardez cette image. Waouh.
Mais ce mec est un malade, frérot. Ce mec est un malade.
C'est à pic, hein. C'est totalement à pic. Hein.
Malade. Et moi, je le suis. C'est qui le plus malade en fait là?
C'est toi, Inox.
Ce mec est un malade.
Gros respect. Incroyable. Waouh. Incroyable. Je connais les polémiques autour de ce type d'événement, conquérant l'impossible, la sécurité, le danger, les moyens, mais je trouve ça quand même assez fou, quoi. Un petit peu de tennis. Je vais acheter un petit café aussi. Waouh. Pardon, tennis. Tennis. Ça donne quoi? Ça donne, on va revenir bien sûr sur la victoire de Swiatek, la polonaise, pour un troisième Roland-Garros. Et on va d'abord évoquer cette finale de fou attendue à Roland-Garros. De toute façon, une finale Roland-Garros, c'est toujours une finale de fou, avec Djokovic qui va tenter de rentrer dans l'histoire du tennis avec un 23e tournoi du Grand Chelem. Personne ne l'a fait à ce jour, puisque on va rappeler, chez les hommes, hein, chez les femmes, je crois que le record est à 24 tournois du Grand Chelem. On va l'évoquer ce matin. Djoko est à 22, comme Nadal qui n'est pas à Roland-Garros cette année, vous le savez, blessé, alors que Federer est à 20 Grand Chelem. Mais bon, pour Federer, c'est un peu fini, quoi. Margaret Court, 24, exactement. René Fleur de Paix, on va l'évoquer. Le 23e pour être enfin seul au monde, hein, c'est l'édito ici de Sébastien Nieto du service des sports du Parisien, pour souligner un petit peu l'enjeu. Gagné d'avance en 3-7 pour Djoko. Pépin Camille, 3-7, je dirais pas. Moi, je pense que ça va jouer à l'expérience, au mental. Moi, j'annonce victoire de Djoko, 5-7. Donc c'est face à Casper Ruud, le Norvégien de 24 ans, qui maîtrise le jeu sur terre battue, nous dit le Parisien, comme peu de joueurs actuellement sur le circuit. Et contrairement à Carlos Alcaraz, qui a été lâché par ses nerfs vendredi, on en a parlé déjà, Ruud n'aura rien à perdre, si ce n'est une deuxième finale de rang à Paris, puisque c'était déjà lui qui était Ruud en finale l'an dernier, défait par Nadal. Les pronostics sont partis, on va faire une prévision dans un instant. Oh, le nez qui pique le pollen. Excusez-moi. Donc rien à perdre pour Rude, voilà, qui est un peu le challenger, bien sûr. Les nerfs pourraient au contraire bien envahir cette fois le corps de Novak Djokovic, car malgré son expérience, ses 36 ans au compteur et sa maison garnie de trophées, le Serbe a déjà connu la tension au moment de rencontrer l'histoire. C'était en 2021, cette anecdote est intéressante, aux portes du Grand Chelem Calendar, c'est-à-dire gagner tous les tournois du Grand Chelem sur une même année. Il s'effondrait face au placide Daniil Medvedev en finale de l'US Open. Djokovic joue pour lui, pour les livres, pour la Serbie, bien plus encore, un poids qui pourrait alourdir ses épaules ce dimanche et l'empêcher de maîtriser l'événement. On sait que Carlos Alcaraz, en demi-finale contre Djokovic, a perdu parce que son corps était perclus de crampes, il avait des crampes partout, de haut en bas, mais lui-même a reconnu que ces crampes étaient le résultat d'une tension qu'il avait, qu'il s'était mise sur cette demi-finale face à Djokovic, quoi. Et donc la question qui se pose, là, qui est posée par le Parisien, c'est est-ce que Djokovic, qui lui a beaucoup à perdre dans ce match, voilà, avec la pression qu'il se met, est-ce que cette fois la pression n'est pas sur Djokovic, voilà. Serena Williams et ses 23 titres en Grand Chelem, écrit le Parisien, n'a jamais pu atteindre la marche supérieure. L'américaine s'est cassée les dents à 4 reprises en finale alors qu'elle touchait du doigt son 24e majeur. Synonyme de record égalé pour l'Australienne Margaret Court, donc effectivement aujourd'hui le record de Grand Chelem, c'est une femme qui le détient, c'est 24 tournois du Grand Chelem, et on le doit à l'Australienne Margaret Court. Djoko vise lui un 23e. Est-ce que ce syndrome peut atteindre Djokovic? Ce dernier a de quoi se rassurer au regard de son bilan. Autre info intéressante, face à Casper Ruud, 4 matchs entre les deux hommes, c'est à quelle heure? 14h15, France 2, Roland Garros. Merci Alexandra. Alors, faut que je me mouche là. Désolé, c'est les pollens. Donc 14h15. Donc déjà, le bilan des rencontres entre les deux hommes est super intéressant. Hein? 4 matchs, dont 2 sur terre battue, 4 victoires pour Djokovic, aucun set perdu. Djokovic n'a jamais abandonné un set face à Ruud. Sur le papier quand même, hein, mais comme le rappelle le Parisien, aucun sportif ne gagne un match avant de l'avoir joué. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans la finale femme de Roland-Garros hier. Ça a été quand même très très chaud pour Swiatek à un moment, alors que sur le papier il était quand même donné ultra favorite. Djokovic, pourquoi est-il si dur à battre? Ça, c'est une bonne question. Elle est posée par cet article page 16 dans le Parisien. À la conquête d'un 23e sacre dans le tournoi du Grand Chelem, le Serbe ne semble pas avoir de points faibles. Avec son mental inouï, on ne peut pas lui enlever. Avec ses jambes de feu, on ne peut pas lui enlever. Malgré ses 36 ans, il a l'air d'être imbattable. Quelle est sa recette? La parole à Justine Hénin, la grande championne belge. Novak a plein de formes, de talents, mais rien n'est inné. Il y a juste un travail colossal derrière tout ça. Avant le match contre Alcaraz, je suis allé le voir à l'entraînement par curiosité. C'est fou, il ne laisse rien au hasard. Son approche dans le détail est époustouflante. Après 20 ans sur le circuit, après avoir tout gagné, il cherche en permanence à s'améliorer dans tout. Tout est minutieusement préparé. Reproduire cette somme de travail dans chaque tournoi, avant chaque match, est incroyable. Henri Lecomte, l'ancien champion français, parle effectivement de son côté extrêmement méticuleux. Toutes ces journées de Djoko sont réglées à la minute près. Les seules où il n'est pas dans le calcul, c'est quand il dort. C'est le seul moment où son cerveau se repose. Sinon, il va rechercher sans cesse la perfection. Intéressant. Hein. Alors, on aime, on n'aime pas. Hein. Ce n'est pas le plus populaire des grands champions de tennis, pour toutes les raisons que vous savez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il est sur le point de devenir le joueur ultime, le GOAT, celui qui va remporter pour la première fois 23 tournois du Grand Chelem. On pourra toujours avoir un débat sur le plus beau style de jeu, Federer, sur le plus combatif et le plus sympathique, Nadal, mais sur un plan purement mathématique, si Djokovic aujourd'hui gagne Roland-Garros, eh bien, il devient le joueur masculin qui aura remporté le plus de tournois du Grand Chelem de l'histoire de ce sport. Et ça ne pourra pas être contesté. Non, il y a Poppy Pop qui écrit Joko est un des meilleurs par son jeu. Je pense aussi qu'il va gagner, mais sa personnalité perso, j'ai du mal. Voilà, j'aime pas du tout non plus le perso, me dit Pepper Camille, mais il a un très beau jeu, oui. C'est un tueur le Joko, pas le temps de niaiser, me dit Dromadaire. Et maintenant, attention, merci Sam85, attention, horoscope. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était un piège, et donc, et je savais que vous alliez tomber dedans, et je vois du lion, et du vierge, et du vierge. D'autres sont faits avoir? Non. Ouais. Non, c'est pas maintenant. Non, on va quand même saluer Swiatek, la polonaise. Troisième tournoi de Roland-Garros gagné, quoi. Regardez. Ah, il faut qu'on fasse une... Hop, Sam, la prédiction. Merci. Occitanien, merci. Prédiction, c'est parti. Alors, vous allez pouvoir miser tous vos points de chaîne sur ce match. Qui va gagner? Roland-Garros, donc chez les hommes, puisque chez les femmes c'est fait. C'est parti. 1. Djokovic. 2. Rude. Rude, disent certains. 3. Henri Lecomte. 4. Domingo. 5. Jean Massier, puisque vous savez que Jean gagne à peu près tout ce qui touche, notamment la Zilane, bien sûr. Djokovic, Rude, Henri Lecomte, Domingo, Jean Massier, c'est une prédiction. Vous pouvez miser vos points de chaîne et faire le plein de points si vous gagnez, bien sûr. Et c'est parti pour 2 minutes de prédiction. Let's go. Ça vient pas de frapper, ça a frappé chez moi. Bon, il y a une sonnette. Quand les enfants viennent ici, ils sonnent à peu près 15 fois. Donc je pense qu'on les aurait entendus. Elle est où ma prédiction? Merde, elle est où ma prédiction? Je l'ai perdue. Ah, je l'ai retrouvée. Elle est où ma prédiction? Voilà. Ah, je l'ai retrouvée. Ouais, ça donne ça. Qui va gagner Roland-Garros? À 85%, hein, les points de chaîne sont misés sur Djokovic. 8% seulement sur Rude. Voy. Hein. Et alors, certains sont très joueurs puisque jouent des points sur Jean Massier, sur Domingo, pas trop. Même sur Henri Lecomte, sachant que vous ne pouvez pas gagner a priori. Hein, mais je salue le geste, je salue le beau geste. Voilà, voilà. C'est une. Vous saluez la vie, vous dites un peu merci à la vie, hein, ce faisant. Et je salue le geste, voilà, le beau geste. Voilà. Je salue les amoureux, les amateurs du beau geste. Voilà, le côté un peu artisan de ce que vous faites, sinon artistique. Le panache, c'est pouille. Voilà, effectivement. On note quand même que Jean Massier, à un moment, était devant Rude. Comment ça, ils ne peuvent pas gagner? Je vous expliquerai. Normalement j'aurais misé sur Domingo, mais il est blessé, nous dit Sozo. Bien vu, je vois qu'on suit un petit peu l'état de santé des sportifs. Voilà, 80%, c'est fini. 80%, non c'est pas fini, reste quelques secondes. 80% des points misés sur Djokovic, 13% seulement sur Rude. Blackwaterloo, bonne garde à l'hôpital. C'est Blackwaterloo d'ailleurs. 80% des points de chaîne misés sur Djokovic, 12% seulement sur Rude. Bon, moi aussi c'est mon sentiment. Ça veut dire je mettrai fin à la prédiction après le match cet après-midi. Allez, vous savez quoi, je vais choisir la réponse tout de suite. Non, ça veut dire que si Rude gagne, c'est énorme. On voit bien que les pronostics sont plutôt sur Djoko, quoi. Ça va être énorme. C'est un match. Sur un match, tout est possible. Regardez comment hier, Muchova, la Tchèque, a mis en difficulté. Je ne sais pas si vous avez vu le match, Swiatek. Hein, à un moment du match où elle est sur la voie de la victoire, quoi. Finalement, Swiatek l'a emporté. Swiatek 3 reine de public, chouchoute du public. Pourquoi toi? Parce que c'est son troisième titre gagné à Roland-Garros et la Polonaise qui confirme son statut de meilleure joueuse du circuit sur terre battue. Reine de Roland-Garros, reine du circuit, nouvelle reine dans le cœur des fans français. C'est vrai qu'elle avait les faveurs du public, hein. La numéro 1 mondiale a remporté une nouvelle fois l'unique grand chelem sur terre battue cette saison, s'arrachant face à Karolina Muchova. 6-2, 5-7, le deuxième set était pour Muchova. 6-4, voilà, à un moment Muchova, je crois, a l'avantage dans ce troisième set, mais Swiatek a réussi à inverser la pression. Malmenée, voilà, c'est ce dont je vous parlais, malmenée par Muchova, comme peu l'avait réalisé sur cette terre battue parisienne tout au long du tournoi, Iga Swiatek a été poussée et encouragée tout au long du troisième set par une grande majorité des fans présents. C'est vrai qu'elle est appréciée des supporters. Après 4 succès en majeur, donc 4 tournois du Grand Chelem, puisqu'elle a gagné l'US Open, aussi, elle devient la plus jeune joueuse à remporter autant de titres importants depuis Serena Williams en 2002. Excusez du peu, hein. La Polonaise pourrait devenir la joueuse d'une génération et les Français l'ont bien compris. Le tennis féminin, disent les amateurs, manque depuis quelques années d'une grande championne, hein, qui dure un peu. Alors qu'on a vu plein de jeunes talents au tennis féminin s'imposer, gagner un grand chelem et disparaître après, ne pas durer, eh bien Swiatek est peut-être cette championne que le tennis féminin attend, qui peut être la championne, la favorite, celle que tout le monde veut battre et qui tire la distance, la longueur, la durée. Donc bon, en vrai, j'étais un peu pour Swiatek hier, pour ces raisons, en fait, pour ces raisons, pour que soit confirmée l'émergence d'une grande championne en tennis. Voilà, mais le match c'était pas mal, hein. Je sais pas ce que vous pensez de ceux qui ont regardé le match, comment vous l'avez trouvé. Les gens qui ont regardé la finale dame à Roland-Garros. Oui, c'est vrai, il y avait un panneau dans les tribunes qui disait non pas Roland-Garros, mais Poland-Garros, Poland, puisqu'elle est elle est polonaise. Très beau match, me dit Super Stenner. En difficulté au début du troisième set, Swiatek, me dit Dubman Ayre. Super match, El Kazboka. Très beau match, me dit Pepe PB. Ça fait du bien de voir quelqu'un jouer du service volé, Gurbuk. Je pense que tu parles de Muchova, hein. Je pense que tu parles de Muchova parce que j'ai vu des choses incroyables. C'était beau, hein. Surpris par l'équilibre du match, dit Joe. Je crois que tout le monde l'a été, hein. Tout le monde l'a été, c'était fou, hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié une finale dame, me dit Super, Super Stenner. Si, si, la vitesse des services. Il y a Gwenegan qui dit qu'il n'y a pas la vitesse des services chez les femmes. Moi, si, si, j'ai vu, moi. J'ai vu. Un vrai régal, me dit David. Max Lard a regardé, a préféré Muchova. Jeu très spectaculaire, hein, monté au filet. Personnalité beaucoup plus sympathique que la polonaise, qui n'a pas voulu enlever sa casquette, même à la cérémonie, au vu des sponsors. Ça, j'ai pas vu ça. C'est pour cette raison ou pas? Parce que, regardez, je sais pas si vous voyez. Mais moi, ça m'avait intrigué. Je comprenais pas pendant le match ce qu'elle portait sur le côté. Là, pour moi, c'était une petite déco. Et en fait, pas du tout. Elle a un petit ruban là, aux couleurs en fait de l'Ukraine. Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas pour cette raison? Je ne suis pas sûr, hein. Mais est-ce que ce n'est pas pour cette raison qu'elle n'a pas enlevé sa casquette, pour que justement au moment où toutes les caméras du monde entier étaient braquées sur elle, eh bien, tout le monde voit qu'elle affichait son soutien. Aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes, quoi. Je me demande si c'est pas ça aussi, hein. Les Polonais sont en super soutien de Rominou, donc pas impossible, me dit Sepouille. J'aime bien l'humour de Firestar qui écrit: j'étais surpris de ne pas voir Venus Williams en finale, mais je dois avoir quelques années de retard. Finale masculine à quelle heure? Alexandra nous disait tout à l'heure 14h15, 14h30, France 2 Roland-Garros. Quelqu'un à l'heure précis, 14h je crois, Ifatou. 14h, 14h15, 14h30, me dit Enable 007. 14h30, je vais être là. Oh, je vais être là, moi. Je vais être là. On va regarder. Avec les enfants, on va regarder. 14h, je vois beaucoup 14h30. Certains disent 14h15. 14h15, ça peut être la prise d'antenne France 2 et 14h30 le match. Voilà, certains disent même 15h le début du match. Vous savez quoi, on se met à 14h devant France 2, comme ça ce sera bon pour les audiences de service public et vous ne raterez pas le match surtout. Non, Asbel, c'est trop tard. pour miser. En plus, tu voulais miser pour Rude, donc franchement, garde tes points. Hein. Horoscope, là on y est. Horoscope, le premier, la première à me donner son signe astrologique dans le chat, c'est Sagittaire qui a gagné. Allez, je vais donner Vierge aussi parce que vous avez été rapide. Le jeu débile de cette émission, pour ceux qui ne sont, qui sont là pour la première fois avec nous, à un moment, quand on arrive sur la page horoscope du Parisien, qui est aussi la page météo, comme ça vous pouvez regarder la petite météo si ça vous intéresse pour aujourd'hui. Le premier, la première à me donner son signe astrologique correctement orthographié dans le chat, je lui lis son signe. Comme je suis de bonne humeur ce dimanche, on va lire Sagittaire, puisque Nini Bobby a été le ou la plus rapide, et Vierge, puisque Gwenegan 79. Gwenegan, ça sonne bon, le Bretagne, ça quand même. Hein, a été en deuxième position avec Vierge. Voilà. Cavo Stream, merci pour le troisième mois d'abonnement. On commence avec Sagittaire. Sagittaire. Je zoome un peu. Ce qui vous permet de lire. Ah, faut que je me mouche. Les autres signes. Profitez un petit peu là que je me mouche. Pardon. Pollen. Sagittaire, le cœur. Le plus important. Quelques discussions vives sont possibles entre les amis et votre conjoint. Hein, si vous avez un match, pardon, un déjeuner dominical aujourd'hui prévu entre votre amoureux, votre amoureuse et des potes, il faudra choisir. Sinon, ça va être chaud. Réussite. Une journée très positive au cours de laquelle le travail peut vous réserver des surprises parce que oui, il y a des gens qui travaillent le dimanche. Voilà. Forme. Bonne. Sagittaire, c'est cool. J'ai dit aussi Vierge. Vierge. C'est où ça? Cœur. Les événements vont vous surprendre par leur rapidité. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Réussite, vous allez devoir faire un gros effort de concentration aujourd'hui pour venir à bout des dossiers en cours. Tous ces gens qui bossent le dimanche, je trouve ça hallucinant. Ouais. Forme morale en baisse. Et puisque je suis très bonne humeur, John Doe, parce que tu étais en troisième position, je t'ai vu avec Lyon. Eh bien, je lis Lyon aussi. Cœur, pour les couples, le ciel amoureux est sans nuages. Pour les célibataires aussi, mais du coup, quand t'es tout seul, tu, en général, t'as pas trop de soucis de couple. Réussite, inutile de vous agiter pour obtenir gain de cause. Aujourd'hui, tout sera facile. C'est dingue de parler autant de boulot un dimanche, mais bon. Forme, il faut boire beaucoup d'eau parce qu'il faut éliminer les toxines. Ce qui veut dire que les lions se sont déchirés hier soir, samedi, quand même. Incroyable. Hygiène de vie, ça ne va pas du tout. Merci pour le raid Neymar Junior, il y a le joueur du PSG. Pour encore que, maintenant, c'est fini, il s'en va. Qui vient de nous raid. Qui vient de nous raid. Merci beaucoup. Merci Neymar. Merci pour le raid. Comment on peut croire des trucs aussi débiles, Obérix? Bah parce qu'on n'y croit pas, en fait. Personne ici. Mais c'est ça qui est drôle. Ça nous fait marrer. Voilà. C'est un choix éditorial. C'est un choix très personnel de lire la page horoscope. Voilà. Ah, les pollens. Personne n'y croit, mais ça nous fait marrer. C'est tout. Non, Neymar, il reste. Contrat jusqu'en 2027. Ok, autant pour moi. J'ai dû confondre avec Messi. Vraiment un gros footix, moi. On ne sait pas s'il part, en tout cas. Ok. Oh là 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 là. Pourtant, je prends les trucs et tout, hein, les médicaments, là. Merci, David. On revient sur Annecy. On revient sur Annecy. Après une petite pause, je vais me moucher, je vais me faire un petit café. C'est assez vide. Et puis, j'ai besoin d'un petit peu de force parce qu'on arrive sur ce qui s'est passé à Annecy. On en a très longuement parlé hier, mais c'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui est sensible, et là j'ai besoin d'un petit coup de chocolat pour prendre des forces. Je vous mets une petite pause, je vous mets 3 minutes, pas une seconde de plus de musique, un peu de pub pour ceux qui sont pas abonnés, voilà, et on se retrouve juste après pour le reste de l'actualité, pour parler d'Annecy, pour parler de l'agenda de la semaine prochaine, et pour parler de la vie et du beau temps et tout ça et plein d'autres choses, voilà. C'est parti, à tout de suite. Je vais me refaire une petite santé. Et où la musique? Oh là là, ce rhume, c'est bon, ça. J'aime bien ce titre, je vous le cale au début. À tout de suite, bande de belles personnes. Un petit café. Ah, c'est peut-être un petit peu trop fort. Ça s'écoute fort, hein. Non, pas rupture de lait. Non. Les plus attentifs, bravo, chien GPT. On notait que je mettais plus de lait dans mes cafés. Écoute, comme je bois quand même une quantité astronomique de café au lait et que je trouve que mes apports caloriques sont un peu trop importants vis-à-vis de mes dépenses en rapport avec mes dépenses physiques, eh bien j'ai supprimé le lait dans certains de mes cafés qui sont devenus donc des cafés. C'est très original. Je ne vais pas au Hellfest le week-end prochain, morphine. J'aurais voulu, mais là, un manque de temps là. Sachant que j'ai deux gros streams à préparer pour la semaine prochaine, vendredi soir, ça me plaît, deuxième épisode, et samedi soir, en direct de Rennes, une nouvelle exposition, et tienne. Je graffe la batterie, je suis toujours sur le coup, peut-être une petite surprise à la rentrée, on verra. Ouais. Oui, c'est à cause du dermato, John Doe exactement. Mon dermato, qui je vous le rappelle, la semaine dernière, m'a trouvé bien grassouillet. Quand j'ai enlevé le t-shirt pour lui montrer les petits grains de beauté, qui m'a dit, ah oui. Hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Ah oui, vous étiez un peu plus fit avant, non? Voilà, donc là je me suis dit, bon, qu'on Sam, il faut reprendre la course à pied. Hein, un indice sur l'invité de Sam Play, CF10, pas pour l'instant, c'est trop tôt. C'est trop tôt, vous, non, pas d'indice. Si, c'est quelqu'un qui aime bien les jeux vidéo. Voilà. On rigole, mais c'est très déplacé comme remarque, vous parlez du médecin. En vrai, non. Ce médecin, c'est un passionné de course à pied, c'est un mec qui est super fit, super en forme et tout. Donc les fois précédentes, on avait beaucoup parlé de course à pied, de triathlon, il sait que j'aime bien tout ça. Et je crois qu'il a été un peu surpris, vraiment, sincèrement, de me voir en mode un peu mode de beurre, quoi. Mode de beurre fondu. Désolé. Ne vous inquiétez pas pour ma santé, c'est juste des rien du tout. Et donc, je pense qu'il a été vraiment, sincèrement surpris. Et il n'a pas pu s'empêcher de dire ça. Je pense qu'il le disait pour mon bien, en mode, Samuel, c'est important le sport pour l'hygiène de vie. Je lui dis, bah, oui, je sais. J'ai manqué un petit peu de temps. Donc, voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à trouver du temps ces derniers jours et j'ai repris un peu la course à pied. Donc, ça, c'est cool. Pas pour retaper des marathons ou des triathlons, mais voilà. Il y a Renan qui dit « Mon dentiste m'a fait le même coup, mais c'est pour notre bien. » Renan, que ce soit clair, là c'est un message d'avertissement que je t'envoie. Renan, si ton dentiste, ton ou ta dentiste, te demande de déshabiller pour regarder tes dents, parce que si ton dentiste a fait remarquer que tu avais perdu la ligne, c'est que quelque part tu devais être en caleçon, voire plus dénudé sur le grand siège allongé là, du dentiste, avec en plus la lumière dans la gueule, ce qui fait que tu vois pas vraiment ce qu'il fait. Si ce ou cette dentiste a demandé de te déshabiller pour regarder l'état de tes molaires, tes canines, tes incisives, méfie-toi. Parce que normalement, c'est pas la procédure. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'il faut avertir notre ami Ronan quand même. Mineus dit, est-ce que tu lui as répondu que tu faisais du e-sport du coup? Oui, je lui ai expliqué, mais bon, il semblait dire que pour l'hygiène de vie, c'était pas... Merci Captain McBernick pour le 18e mon abonnement. Je viens pour une carie, pas de problème, mettez-vous tout nu. C'est super bizarre, hein. Il y a Nemux qui nous dit, c'est pas normal? Oh là 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 là. Ouais, faites gaffe, hein. Faites gaffe, hein. Super bizarre, hein. Sozo, arrête, vous êtes vraiment hardcore, quoi. Oh, ça y est, oh, vous êtes tellement hardcore un dimanche matin. Dentiste / gynéco / proctologue. C'est parti. On dit pas procto. Oh, je sais plus, bref. Voilà. Il y a Fumo No Pantsu qui intervient dans ce débat et qui nous dit, on a un professionnel avec nous, je suis dentiste, et vous vous trompez, c'est la procédure, faites-moi confiance. Ah la vache! Voilà. C'est trop quand même. Bon, ça nous fait du bien de... Ça nous fait bien de... Ok, si vous voulez séduire une femme qui aime les montres, n'utilisez pas le conseil de Kyo Yeou qui me dit, parce qu'il sait que Hélène travaille dans l'horlogerie. Je profite de ce moment sans article pour poster ces phrases d'accroche si votre femme aime les montres. Hey, tu serais pas une pile? parce que tu fais battre mon cœur en quartz 32,768 fois par seconde. C'est grâce à toi que mon ressort est complètement serré. Tu es la fourchette à palette qui rythme mes journées. Comment dire ? Je pense que si vous croisez un jour une jeune femme ou un jeune homme qui aime les montres, je ne crois pas que ce soit la phrase idoine pour vraiment toucher son cœur, quoi. Enfin, supposer que ce soit son cœur que vous voulez. Enfin, bref. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein ? C'est beau, mais oui, certains trouvent ça beau. Moi, je suis pas. Mon ressort serré, on est d'accord que. En même temps, ça rime, ça compte. Ça rime, ça compte, ouais. Est-ce qu'on est en direct là, à force, je ne sais plus. On est toujours en direct ici, on est toujours en direct. À partir du moment où je lis le chat, c'est qu'on est en direct. D'accord. Méfiez-vous des streamers qui lisent pas le chat. Hein. En fait, c'est des youtubeurs. Hein. Ça a été enregistré à la cool 15 jours avant, c'est posté. Donc ici, on lit le chat. Hein. Voilà. Moi, ça me fait rire, Dubroutz dit, on me pécho avec une accroche comme ça 100%. Comme quoi, il n'y a pas de règle. On est dans le domaine du no rules. Hein. C'est l'amour. Hein. Enfin, voilà, c'est pas de règle, pas de règle. C'est pas possible. Je ne te crois pas. Il y a Chien GPT qui dit « Je suis tombé sur le salon d'un opticien coiffeur. » Je n'y crois pas. Déjà, le concept est étonnant, dis-tu. Presbytère. Presbytère. Oh non, je n'y crois pas. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Tu inventes. Tu inventes. Chien GPT écrit, je le répète, « Tu te moques de nous. Je suis tombé sur un salon d'un opticien coiffeur. » Ça n'existe pas. Tu mens. Déjà, le concept est étonnant. Presbytère. Presbytère. Combo de jeu de mots. Tu mens. Tu mens, ça n'existe pas, c'est impossible. Non. D'ailleurs, je vais faire une recherche sur Internet. Ça n'existe pas. Tu inventes. On va laisser tomber l'actualité et on va aller vérifier ça parce que c'est inventé, ça n'est pas possible. Presbytère. Tu inventes. Tu inventes. Je ne trouve pas sur Internet. Alors, j'écris presbytère, attends. Déjà, je cherche. Si je trouve un lieu, je mange ma souris. League of Legends. Je ne trouve pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, désolé. Ça n'existe pas. On est d'accord, c'était n'importe quoi. Carabistouille ! Mensonge, Bilvezé, Paflelo, merci pour le Prime, Flobby One, merci pour le 10e mois d'abonnement, Lemming67, merci pour le 22e mois d'abonnement. J'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de subs quand je disais des conneries que quand je disais l'actualité. Ça me fait réfléchir à de nouveaux formats. Hein. Vous êtes en train de me remettre en question là. Je vous lis. Elle était pas mal, les streamers qui lisent pas le chat sont des youtubeurs. Elle était pas mal, hein? C'était pas mal. Je suis assez fier de ma connerie là. Une seule. Oui, tu as raison. Pinguini rappelle qu'il y a une règle pour l'amour, une seule, le consentement. Merci. Oh, Paf Lelo, j'avais pas vu ton message, merci beaucoup. Oui, j'ai trouvé une salle de concert qui a porté ce nom. Ouais. Mais pas opticien coiffeur là. Hein. Ouais. Calomnie, ouais. Voilà. Défécateur officiel qui dit, enfin, il n'y a pas de honte à être youtubeur, hein. Oui, non, bah non. Moi-même je le suis un petit peu. Enfin, même si je ne mets sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, que le replay de mes streams, quoi. Tu penses quoi, Samuel, de ce qui s'est passé à Annecy? T'attends, Toll, tu sais quoi, tu me fais une passe décisive. On va en parler tout de suite. Et je redeviens sérieux pour parler de cette info de fou qu'on a longuement évoquée, commentée hier. Le journal du dimanche y revient ce matin après l'attaque d'Annecy. C'est l'un des angles choisis par le journal. Le droit d'asile en question, mais il n'y a pas que ça qui nous intéresse. On va se pencher sur les dernières informations. hein, sur cette affaire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Un mot d'abord de l'état de santé des quatre enfants, hein, autour de 3 ans chacun, 2 petits français, une jeune, il y a un enfant britannique et une jeune néerlandaise aussi, qui, ainsi que les 2 adultes, a priori sont hors de danger. Hein. Donc on attend les dernières infos sur l'état de santé. Alors on ne sait pas quelles séquelles psychologiques et physiques vont-ils garder, mais a priori, si jamais vous avez d'infos dans le chat, dites-le moi, mais a priori la vie de ces 6 personnes, 4 enfants et 2 adultes, n'est plus en danger. Une fois ceci dit, puisque ça me semble être l'info la plus importante, penchons-nous sur l'article du JDD. Mise en examen hier, donc ça je vous l'annonçais hier matin, effectivement samedi devait être mis en examen Abdelmazi H, l'agresseur, l'auteur de l'attaque, effectivement il a été mis en examen et placé en détention hier pour tentative d'assassinat et rébellion avec arme. Si ses motivations restent encore très énigmatiques, ça, l'enquête ne fait que commencer, on ne sait pas, pour l'instant je crois qu'il refuse de parler. Les enquêteurs ont rapidement écarté la piste terroriste. Compte tenu de ce que nous savons de son état psychique pour le moment et du fait qu'il ne se revendique d'aucune entreprise terroriste connue, nous ne pouvons pas le rattacher à ce genre de projet. Hier, on a lu un article, un encadré très intéressant dans Le Parisien qui expliquait pourquoi, pour l'heure, la justice française ne retenait pas la qualification d'attentat ou d'attentat terroriste, voilà, mais d'attaque, on avait un encadré extrêmement clair là-dessus. Si ça vous intéresse, c'est en replay dans le stream d'hier. Que sait-on d'Abdelmassi H, voilà, cet homme qui, à ce jour, refuse de parler aux enquêteurs. Né en 1991, ce réfugié syrien se serait donc installé en 2013 en Suède, où il a obtenu l'asile après avoir fui son pays en 2011, au début de la guerre civile. Merci beaucoup, Delphi, pour le soutien. Il est le père d'une fillette de 3 ans qu'il a eu avec son épouse, une Syrienne rencontrée en Turquie, naturalisée suédoise, qui lui a été refusée à lui. De ce qu'on sait aujourd'hui, donc effectivement, il a vécu longtemps en Suède, il a demandé la nationalité suédoise, il ne l'a pas obtenue. Alors pour quelle raison? Là on a des informations qui sont contradictoires. Sa maman à ce monsieur qui est toujours vivante, qui a été jointe, explique que c'est parce qu'il a servi dans l'armée syrienne et donc la nationalité suédoise lui a été refusée. D'autres sources indiquent qu'il y aurait une histoire de fraude aux allocations sociales quand il était étudiant. Voilà. En tout cas, la nationalité suédoise lui est refusée, contrairement à sa femme, qui l'obtient. En grande dépression suite à cette décision, selon ses proches, le suspect aurait entamé un espèce de tour d'Europe. Il est passé dans plusieurs pays pour tenter d'obtenir la nationalité dans un autre pays. Et il arrive en France en octobre. Il est à Annecy. Sa carte de résident et son passeport suédois lui permettaient de circuler. Il n'était pas en situation irrégulière. Il avait fait une demande d'asile en France, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Précisant que cette requête avait été refusée le 4 juin, soit 4 jours avant l'attaque. L'attaque intervient 4 jours après le refus l'État français à la requête de demande de nationalité. Sans abri, à Annecy, Abdelmassi H dormait sur des cartons qu'il installait chaque soir sous un pas de porte de la rue Royale, l'une des principales artères commerçantes de la ville. Des voisins donnaient parfois à manger à cet homme qui était devenu familier. Il parlait tout seul, mais il était bien mis, témoigne Jacqueline, croisée vendredi. Très isolé, il ne se mélangeait pas avec les autres SDF. La foi, puisque la question de sa foi chrétienne a été évoquée pas seulement des médias d'ailleurs, mais aussi des politiques. La foi de celui qui se proclame chrétien d'Orient interroge également les enquêteurs. Samedi, la procureure d'Annecy a confirmé que des témoins l'avaient bien entendu évoquer sa femme, sa fille et prononcer le nom de Jésus-Christ. 2 images chrétiennes ont été retrouvées sur lui lors de son arrestation, a précisé encore la procureure, ajoutant qu'il était en possession d'un couteau pliable, d'une croix autour du cou et de 480 euros en espèces, ainsi que d'un permis de conduire. Que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, que l'on soit, peu importe, croyant, tuer ou vouloir tuer au nom de Dieu est une perversion absolue, cela va sans dire, mais mieux encore en le disant. Et c'est ce qu'a martelé Yves Le Saul, l'évêque d'Annecy, lors d'une messe qui a été donnée vendredi en hommage aux victimes. Je vous lis dans un instant, je lis juste l'article. Article signé Martin Faure et Guylaine Hidou dans le JDD aujourd'hui. Figure de la communauté catholique locale à Annecy, le père Vincent Grillet a ouvert le centre d'hébergement d'urgence Sainte-Thérèse, qui est particulièrement fréquenté par des réfugiés syriens, justement, à deux pas de l'église Saint-Louis de Novelle. Et ce père Vincent Grillet dit « De nombreux réfugiés pourraient passer à l'acte par pathologie, dépression, isolement. S'ils ne le font pas, c'est notamment parce qu'il existe des lieux d'accueil comme le nôtre qui redonnent un peu d'humanité à des gens qui sont en train de vriller. » Son centre d'hébergement affiche chaque soir complet au vu des difficultés des services de psychiatrie. Je ne suis plus que jamais convaincu qu'il faut continuer. On va se pencher dans un instant sur les mécanismes d'asile en France et au niveau européen, et on lira justement un papier sur les troubles psychologiques qui peuvent atteindre certains exilés. C'est dans le JDD, mais d'abord je vous lis. Le nettoyeur écrit « À croire que c'est de notre faute s'il passe à l'acte parce qu'il n'y a pas assez d'accueil, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de notre faute. » Mais je pense qu'il est important de comprendre le pourquoi du comment de ce genre d'acte pour que, idéalement, ça ne se reproduise pas, bien sûr. Je vous lis, je remonte dans le chat un petit peu. Gros danseur m'a dit que sur France Info, il y a aussi le témoignage de son voisin de cellule en garde à vue. C'est assez étonnant, ça. Comment ils ont obtenu ce témoignage? Est-ce que, permettez-moi d'aller voir cette histoire. Je suis un peu surpris. Pardon. Il pleurait beaucoup, criait, se roulait par terre. Un jeune homme en garde à vue en même temps que le suspect de l'attaque au couteau d'Annecy témoigne. France Info a pu s'entretenir avec ce jeune homme de 21 ans qui s'est retrouvé en garde à vue au commissariat d'Annecy au même moment que le suspect de l'attaque au couteau. Témoignage de ce jeune homme. Il pleurait beaucoup. Il crie en anglais « Escape me »,« Save me ». Il se faisait passer pour une victime. Il tenait aussi quelques propos religieux. Je l'entendais, il se roulait par terre. À ce moment-là, d'ailleurs, c'est intéressant, le jeune homme n'était pas au courant des faits commis. Ok. Ok. Merci pour l'info. Je vous lis. Hein. En phase de dépression, est-ce que c'est pas plutôt des envies de suicide plutôt que de meurtre, Louaos? Oui, tu as raison, c'est plutôt se faire du mal à soi qu'aux autres. D'ailleurs, c'est évoqué par un article dans le JDD qu'on va lire dans un instant. J'ai encore un ou deux commentaires et puis je vous lis le regard de Jean-Pierre Chevènement sur la question des mécanismes d'asile en France et en Europe. Lisons. Puisque le JDD et puis certains responsables politiques estiment qu'avec cette affaire, eh bien, c'est la question du droit d'asile hein, qui est en question en France et en Europe. Un choc à des questions et voici une interview de Jean-Pierre Chevènement qui dit effectivement que selon lui, eh bien, les mécanismes européens sont incohérents. On va rappeler que c'est un ancien ministre de la Défense, un ancien ministre de l'Intérieur. Comme vous le voyez, ma santé est au top. Profitez de ces derniers streams, bien sûr. et ancien candidat à la présidentielle, c'était en 2002. Que dit-il Jean-Pierre Chevènement ? Il faut sans doute considérer à ce stade qu'il s'agit de l'acte d'une personne qui n'a pas tout son entendement. Mais le fait que quelqu'un qui a le statut de réfugié dans un pays de l'Union, donc ici la Suède, depuis manifestement une décennie, puisse malgré tout déposer une demande d'asile dans un autre pays, souligne l'incohérence des mécanismes européens. Jean-Pierre Chevènement rappelle que ces dernières années, 30% de ceux qui ont demandé une demande d'asile en France étaient déjà passés par un autre pays européen, et même avait déjà été débouté dans un autre pays. Comment comprendre qu'une décision prise en Allemagne n'ait pas d'effet en France et qu'il y ait ainsi des cordes de rappel ? Cela donne le sentiment que c'est sans fin ou pour le moins incohérent. Voilà. Bon, ça c'est l'avis de Jean-Pierre Chevènement qui estime qu'il n'est pas normal qu'on puisse demander asile dans un pays en Europe et le faire également dans un autre pays. Voilà. Bon, après, on s'est beaucoup penché hier sur les réactions, j'allais dire récupération politique suite à cette affaire. Je pense qu'on l'évoquera de nouveau dans les prochains jours. Penchons-nous sur l'affaire psychiatrique slash psychologique de cette histoire avec un article d'Emmanuel Soufi dans le JDD qui évoque ces plaies invisibles qui ne sont pas soignées. De quoi s'agit-il ? Du fait que nombre d'exilés, nous dit le journal du dimanche, souffrent de troubles psychologiques pouvant entraîner des passages à l'acte. Certains sont très choqués par les propos de Jean-Pierre Chevènement. Je lis le commentaire de Zupersteiner. Je trouve le raccourci entre ce qui s'est passé et le droit d'asile honteux, surtout aussi vite après le drame. D'autres, un peu plus tôt dans le chat, tout à l'heure, disaient qu'il ne faut pas réagir à chaud politiquement comme ça, aussi vite, ou appeler à un changement de la loi après des faits divers comme ça. C'est dangereux. Je lis l'article du JDD qui est très intéressant. Être contraint à l'exil, traverser les frontières, patienter en zone de transit, débarquer en terre inconnue, sombrer dans la précarité, tenter de survivre. La plupart des réfugiés portent en eux quantité de maux invisibles et non décelés. Selon la mère de l'assaillant, Abdelmassi H, qui a poignardé 6 personnes, dont 4 enfants jeudi à Annecy, souffrait d'une grave dépression et ses échecs pour obtenir la nationalité suédoise auraient aggravé son état. Alors moi, j'avais cru comprendre qu'en fait, c'est le refus de la nationalité suédoise qui avait provoqué la dépression, mais manifestement, si ces infos sont justes, selon la mère donc de l'agresseur, la dépression était antérieure à le refus de la nationalité suédoise, mais que ce refus l'aurait aggravé. D'après une conversation qu'elle a eue avec sa belle-fille, donc l'ancienne épouse de l'agresseur qui, elle, vit toujours en Suède, et rapportée par l'AFP, le réfugié syrien n'était jamais bien, toujours déprimé, avec des idées noires, il ne voulait pas quitter la maison ni travailler. Sa demande d'asile en France avait été refusée le 4 juin et 4 jours plus tard, il se met donc la terreur au bord du lac d'Annecy. Depuis, il se terre dans le silence. On peut supposer qu'il avait besoin d'un suivi, mais il n'y a pas eu accès, relève Armando Cotte, qui est psychologue. Entre la quête de papier, d'argent, de logement, penser ses plaies psychologiques, psychiatriques, apparaît bien secondaire. Quand ils arrivent en Europe, la plupart des réfugiés ne demandent pas de soins psychologiques, poursuit Armando Cotte, pourtant 8 sur 10 en ont besoin. La parole à Andrea Tortelli, psychiatre, responsable des consultations en santé mentale à destination des exilés au sein du groupement hospitalier universitaire de Paris qui reçoit avec son équipe près de 700 patients par an. Que dit-elle ? Leur souffrance relève de troubles anxio-dépressifs et ou de symptômes de peste, de stress post-traumatique qui peuvent engendrer des stratégies d'évitement, agoraphobie, développement d'un monde imaginaire, des états d'hypervigilance, la peur de revivre une situation douloureuse, voire une dissociation provoquant une perte de conscience de l'environnement, les violences subies dans le pays d'origine, durant le parcours migratoire et à l'arrivée peuvent alors réveiller d'anciens symptômes. Si la folie est une excuse trop facile, ça ce sont les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, accompagner ceux et celles qui ont fui un pays en guerre permettrait d'éviter de nombreux drames, disent de nombreux professionnels. Une prise en charge précoce est indispensable, estime Andrea Tortelli. À défaut, le risque de passage à l'acte est important. Plus souvent, effectivement, comme d'autres, comme certains l'évoquaient dans le chat, plus souvent passage à l'acte contre eux-mêmes que contre les autres. Mais les politiques d'accueil font l'impasse sur leur détection et les soins pour les enrayer, je pense que c'est un problème de moyens. Les associations peuvent en proposer à ceux qu'elles identifient. Pour les autres, reste l'hôpital ou la médecine de ville. On évoquait tout à l'heure l'état de l'hôpital public en France et la médecine de ville, hasardeux alors que la psychiatrie est en pleine crise. S'il y a bien une branche de l'hôpital public qui est en crise, c'est effectivement la psychiatrie. Voilà pour ce point qui est intéressant. Les victimes, c'est quoi les nouvelles, Tatornol? Les informations qu'on avait hier, c'est que les 6 victimes étaient hors de danger quant à... quant à la suite des blessures dont ils ont été victimes. Par contre, on manque d'infos sur les conséquences physiques et psychologiques de cette agression pour ces 6 personnes. Voilà. A priori, plus de pronostic vital engagé, exactement. Je lis le message de Last Fatality qui nous dit: ça m'embête qu'on utilise les crimes qu'il a commis pour remettre en question des décisions politiques alors qu'il est sûrement atteint de schizophrénie, délire, hallucinations auditives, déprime. Cette maladie est largement génétique, n'a rien à voir avec sa nationalité ou la demande d'asile. Les schizophrènes sont pour la plupart inoffensifs mais imprévisibles. C'est plutôt un questionnement de comment s'en occuper dans notre société, ce qui est très inefficace à l'heure actuelle, nous dit Last Fatality 09. Merci pour ton message. Je suis d'accord avec l'analyse de Petit Piac. L'idée n'est pas de justifier, et encore moins d'excuser, c'est ce que j'ajoute, mais de comprendre pourquoi une personne s'en prend à des enfants pour que cela ne se reproduise pas, puisque c'est notre objectif en tant que société, bien sûr. L'indicateur officiel tient à souligner le rôle des associations qui font des maraudes auprès des SDF, un rôle qui est essentiel. On aura l'occasion d'y revenir puisque je suppose qu'on aura des nouvelles dans les prochains jours, à la fois de l'enquête, à la fois de ce monsieur, de cet agresseur, de l'attaquant et je l'espère aussi des victimes, en espérant que les nouvelles soient bonnes. Un petit coup d'œil à l'agenda de la semaine prochaine. J'aime beaucoup, c'est toujours en bas de page, dans les premières pages du JDD, page 8 ici, le à suivre cette semaine, qui nous permet de nous projeter un petit peu sur les événements attendus dans l'actualité de la semaine, ce qui nous permet de prendre un petit peu d'avance. Excusez-moi, je lis un message. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a d'attendu? Alors, un truc qui m'intéresse pas mal, moi, c'est l'ouverture du salon Vivatech à Paris. Et je vais essayer de vous trouver un article sur Internet pour évoquer ce salon qui est un peu le rendez-vous de tous ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies, à la tech. Je sais que Pépé Garcia est à fond sur cette histoire. Et puis, je vois que c'est mercredi, le même jour d'ailleurs, que l'ouverture du salon, il y a l'épreuve de philosophie du baccalauréat 2023. Je suis un peu perdu avec la réforme du bac. On est d'accord que les épreuves de spécialité pour le bac nouvelle formule ont déjà eu lieu ou pas? Je suis perdu là. On en est où? Traditionnellement, avant, la philo, c'était début du bac. Début du bac, c'était lancé par la philo, en général. Est-ce qu'on a déjà eu des épreuves là? C'est ça, en mars? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a déjà eu les épreuves de spécialité. D'accord. Donc, ça n'est plus comme à mon époque, hein, le début du bac avec la philo. Ok, très bien. On a même déjà eu les notes, me dit Dubroutz. Cool. Ok, des bonnes notes, j'espère. Alors voilà, Idriss est très complète. Spécialité, c'est fait. Il reste philo et grand oral. D'accord. Donc, j'imagine que pour ceux pour qui la philo, c'est un gros coef, c'est important. Puis d'autres, un peu moins, c'est ça. Ok. Défécateur, bon dimanche à toi. Mais du coup, l'année finit en mars pratiquement, dit Paco. Ben, un petit peu, ouais. Un petit peu. D'accord. Parce que, comme le dit Joref, les élèves ont déjà leurs résultats en gros, quoi. Et Idriss est bien informé parce que sa fille passe son bac. J'espère que ça se passe bien. D'ici à ce que Malo passe le bac, il aura encore changé 3 fois ce bac, on ne comprendra toujours rien, dit Tom 38. Non, pas du tout, puisque Malo passe son bac cette année. Alors, il n'a pas encore 7 ans, mais il a un tout petit peu d'avance parce que bon, on a beaucoup utilisé les vacances scolaires à la maison pour un peu booster Malo au niveau du programme. Et donc, bon, en gros, on a profité des vacances de la Toussaint pour, parce que c'était un programme, c'est un programme inspiré de programme d'entraînement de Djokovic que j'ai mis au point tout seul. Et donc, en, à l'automne, à la Toussaint, pendant les 15 jours, on a travaillé sur les programmes de donc, CE2, CE1, CM1, CM2. Voilà. Donc, on a fait tout le primaire en fait en, à la Toussaint. Après, il y a eu Noël et il avait bien assimilé ça. Donc à Noël, on a fait 6e, 5e, 4e, 3e en 15 jours. Voilà, ça s'est bien passé. Voilà. Surtout au niveau des maths. Les langues, c'était un peu beaucoup parce qu'on lui avait mis donc anglais, espagnol, bon, qui parlait déjà un petit peu couramment. Mais on a ajouté, moi je voulais qu'il travaille une langue morte. Donc on a ajouté le latin et le grec. Et sa maman trouvait que le chinois, c'était intéressant aussi. Donc on a ajouté le chinois. Voilà. Donc ça, c'était à Noël. Et puis en février, ben, on a fait seconde, première terminale, le programme. Voilà. Et du coup, eh ben, il nous restait Pâques. Et on s'est dit, bon, ben, Pâques, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il se repose? Est-ce qu'il peut avoir un peu les vacances, la vie d'un enfant normal? Ben, nous, en fait, on a revisé une nouvelle fois le programme du lycée. Et du coup, on a commencé le programme de prépa hein, pour les classes préparatoires scientifiques, pour les écoles d'ingénieurs, tout ça. Voilà. Donc là, le bac, les bacs, c'est cette année. Voilà. Et à 6 ans, donc c'était un peu l'idée. Donc tout va bien. Tout va bien. Voilà. On parle bien d'un enfant de 7 ans qui passe le bac, Dodo. Oui. Enfin, il aura 7 ans fin août. Hein. Il a 6 ans. Là. Alors évidemment, c'est une plaisanterie. Mais c'est intéressant le commentaire de Klaus Pony. Cette blague me fait grincer les dents après avoir rencontré des parents qui faisaient ça premier degré. Alors ça, j'en parle à dessein. Parce que justement, le message que moi je me permets de faire passer là-dessus, c'est putain, laissez tranquille les enfants, quoi. Laissez-les vivre leur enfance. Il y a des parents, je pense qu'ils sont pas majoritaires, mais il y a des enfants qui, il y a des parents qui poussent énormément les enfants. Alors parfois, effectivement, on le voit pour dans le monde du sport, par exemple, parfois avec des résultats, effectivement. Je sais pas, prenez l'exemple des sœurs Williams qui ont été poussées très très fort comme ça par leur père. Je pense que vous connaissez l'histoire, il y a même eu un film là-dessus. Bon, ça peut donner des résultats, mais pff, à quel prix, quoi. Il y a un âge pour tout. Laissez les enfants vivre le jeu, la rêverie, l'insouciance. Voilà. Alors oui, bah, il faut qu'ils apprennent des trucs, tout ça, donc l'école, c'est bien, mais évitons de les pousser. C'est pas des chevaux de course, quoi. Voilà. Et puis ne projetons pas nos rêves de réussite plus ou moins réussi par nous sur nos enfants. Voilà. Donc voilà, accompagnons. Je pense que les parents, la meilleure chose qu'ils puissent faire, c'est accompagner. Accompagner. Voilà. Être là à côté d'un enfant et être à l'écoute de ce qu'il est profondément, de ce qui pourrait le rendre heureux, équilibré et donc de le mettre en capacité de rendre heureux les autres, parce que si vous n'êtes pas bien équilibré, vous ne pouvez pas rendre heureux ceux qui vous entourent, plus ou moins éloignés d'ailleurs, ça n'est pas possible. La mission d'un père ou d'une mère, c'est ça en fait. Voilà. Et puis pour chaque enfant, c'est différent évidemment, puisque vous avez deux frères ou sœurs ou trois ou quatre, la même méthode d'éducation ne va pas marcher forcément pour chacun, puisque chaque individu est unique. Et au sein même d'une fratrie, eh bien, ce qui a marché pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Donc, mission difficile, sinon impossible, mais c'est la nôtre, en fait. C'est d'écouter, de comprendre, d'échanger, d'être à l'écoute, d'essayer de... Non pas le meilleur parent possible, c'est impossible, mais le moins mauvais possible, pour lui permettre de trouver sa voie, parce qu'il a une voie, il faut qu'il la trouve, en fait. Voilà. Donc, accompagnons-les, mais ne les poussons pas trop. Voilà. Donc, c'est pour mettre fin à cette blague et pour vous dire ce que j'en pense réellement. On va voir un petit peu après cette petite leçon de philosophie morale à dessous de Samuel Etienne, ce qui se passe du côté de Vivatech. On va essayer de trouver un petit article sympa sur le salon Vivatech. Moi, j'ai bien envie d'y aller. Je ne sais pas si je vais trouver le temps. Je ferai bien un petit stream, d'ailleurs, à Vivatech, là, cette semaine. Ouais. Oh, merci pour les messages. Je pensais pas que ça vous toucherait. Ok. Merci petite pocket pour ton gentil message. Alors, trouvons un petit article sur Vivatech là. Ouais. Ah, il y a Elon Musk et Vivatech.
Ok.
C'est quel jour? quel jour? On sait pas quand. Donc VivaTech, l'un des grands rendez-vous mondiaux de la tech, c'est à Paris du 14 au 17 juin. Hein. Peut-être y aller jeudi, moi. Ouais, en fait, je pense que Musk a appris que j'y allais. Et du coup, il... Ah ouais, coquin. Ok, il y aura la directrice générale d'Orange, il y aura le directeur artistique d'Amazon, il y aura les patrons de PayPal, d'Alibaba, il y aura le patron de LVMH. 10 000 startups viendront, seront présentés à VivaTech. C'est énorme. 50 grandes entreprises partenaires, dont Amazon qui devient un sponsor majeur. Je ne savais pas ça. Des acteurs publics seront aussi présents dans 10 régions françaises. La banque publique BPI France, des organismes de recherche, le CNRS, l'INRIA. C'est intéressant, hein, y a du monde. Hein. 32 pays à l'international. Parmi les sujets phares, l'intelligence artificielle, l'énergie propre, les startups au service du climat, parmi les innovations, un masque de ski avec réalité augmentée, un exosquelette pour les soignants, vous me mettrez tout ça, vous m'en mettez 10 s'il vous plaît, une startup qui réveille les conducteurs assoupis, un dialogue avec un Van Gogh artificiel, VivaTech veut aussi promouvoir les femmes dans la tech, très bien, ainsi que les Femtech, c'est des startups dédiées au bien-être des femmes, ok. 91 000 visiteurs l'an dernier. Moi j'y vais, hein, j'y vais. Hein. Bon, je vais y aller, là, ça m'a convaincu là. J'y vais jeudi. Je vais faire un stream. Je vais faire un stream jeudi après-midi. Putain, je vais pas dormir de la semaine. Ouais. Pas mal ça, hein. Intéressant, VivaTech ou pas? Il y aura ma boîte, je te signe un autographe si tu veux, Mix. On se retrouve jeudi. Vous y allez, vous, à VivaTech? Ça vous intéresse un peu ou pas? Trois raisons de suivre la grand-messe tech made in France, article dans Clubic, salon de référence en France et en Europe dédié aux nouvelles technologies. Viva Technology s'apprête donc à donner le coup d'envoi d'une édition qui s'annonce riche en innovation en invité de marque Elon Musk en tête. Pas un mot sur Samuel Etienne. Merci les gars. Bon, en même temps, j'ai dit à personne sauf à vous que j'allais y aller. Trois journées réservées aux professionnels et une quatrième journée ouverte au public. Bon, normalement, je serai sur la troisième journée des professionnels d'après ce que j'ai compris. Ok. Alors première raison d'y aller ou de suivre, parce que c'est un événement majeur en France et en Europe et ça c'est cool. Ok. 91 000 visiteurs l'an dernier, la dernière édition du CES de Las Vegas, que 115 000 visiteurs, c'est intéressant. 20% d'espace d'exposition supplémentaire, 53 000 mètres carrés au total. Là, vous avez un barista. Oh, un barista! Un robot qui fait du café! Deuxième raison d'y aller, quoi. Excellente idée. 2400 exposants, 2000 investisseurs, 50 pays, 23 secteurs d'activité, 8 pavillons pays. Il y a Carré qui dit: désolé, jeudi, c'est piscine. Tu laisses tomber la piscine. Hein. Tu viens en maillot. Hein. Tu viens à VivaTech, c'est important. Hein. Deuxième raison, parce que VivaTech surfe sur les grandes tendances de la tech, l'IA compte bien se tailler la part du lion. Ouais, c'est cool. Et parce qu'il y a des invités prestigieux, peut-être que ça va parler de moi, la star cette année, c'est Samuel Etienne. Voyez-vous, c'est écrit ici. Des invités prestigieux, et la star cette année, c'est Samuel Etienne. Voilà, donc je lis en même temps que vous. Hein. Donc ici, on est sur l'information rigoureuse. Hein. On n'invente pas, on fait pas de pas de côté. Voilà. Le streamer, journaliste et animateur Samuel Etienne, donc il y a une photo de moi là, mais elle n'est pas très ressemblante, elle est un peu bizarre, qui suscite tous les fantasmes dans la communauté tech, sera présent. Voilà, les organisateurs de VivaTech ont annoncé tout récemment sa participation à l'événement. Voilà, en principe, on se dirige vers la participation à une conférence. Voilà, l'angle de l'interview, on l'ignore officiellement, mais qu'est-ce que je vais inventer comme bêtise? Sa maîtrise des réseaux sociaux, notamment les dingueries qui durent sur Twitter, sa passion toute récente pour l'univers des jeux vidéo, voilà, ses streams sur Twitch, voilà, mais aussi sa nouvelle ligne retrouvée depuis qu'il a arrêté de mettre du lait dans son café et qu'il a repris la course à pied seront parmi les premiers sujets évoqués avec les participants à VivaTech. Voilà. Non, en vrai, ça a l'air cool. Hein. Bon, dommage, ça tombe sur une semaine où je suis bien chargé. Mais je vais essayer. Et là, pour l'instant, là, je troll plus du tout. Je vais essayer d'y aller, je crois, jeudi. Attendez, parce que j'échange avec quelqu'un. Je vous ferai une petite surprise. Je suis plein de surprises. C'est ce que me dit ma femme souvent. Tu es vraiment plein de surprises. Mais dans son ton, je ne sais jamais si c'est positif. Parfois, je dis des trucs un peu qui n'ont pas trop de sens. Elle me dit tu es vraiment plein de surprises. Bon, je pense que c'est un compliment. Je pense que j'y vais avec, je ne dis pas qui, un petit stream surprise. J'y vais jeudi après-midi. Peut-être. Voilà. Virtual Bug dit, est-ce que tu as déjà eu des semaines non chargées? Oui, une fois, en troisième. Donc en 85, j'ai eu une semaine, je me rappelle, j'étais pas très motivé sur des trucs et tout. Voilà. Comment ça avec Pépé? Comment ça avec Pépé Garcia? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Si jeudi après-midi, je vais faire un stream dans les couloirs de Vivatech, avec nos petits moyens techniques, la poussette de stream avec Joe, accompagné de Pépé Garcia pour aller voir tout ce qui est intéressant dans les coulisses de Vivatech, je ne l'ai pas dit. Pas du tout. Voilà. Motus et bouche cousue. Voilà, on ne sait pas du tout. Je n'ai rien dit. Est-ce que tu nous le diras si tu le dis? Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'effectivement, jeudi, je ferai un truc qui pourrait ressembler à ça ou pas. Imagine la semaine, quoi. Du stream. On va streamer tous les matins l'actualité. Jeudi, on va peut-être faire un truc à Vivatech. Vendredi soir, il y aura la deuxième de Samplay. On va découvrir un nouveau jeu vidéo avec un nouvel invité. Samedi, il y a un stream à Rennes dans une exposition. Mais qu'est-ce que c'est que cette fin de saison de malade? De malade? De malade? Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est trop, c'est trop. C'est trop. Voilà. Et puis c'est fini, regardez. Quand je fais ça, que j'arrive à la fin, parce qu'il n'y a plus d'article derrière. Voilà, voilà. Un petit stream de 2h39. Oh, allez, Samuel. Samuel. Moi, j'ai prévu de revenir. J'ai promis de revenir à la maison à midi. Non, je suis dans les temps. Parce qu'Hélène travaille ce matin. La nounou nous aide ce matin. Et je prends le relais à midi. Mais ça veut dire que j'ai encore quelques minutes avec vous. Donc, si vous voulez parler de 2-3 trucs, voilà, du fait que j'ai retrouvé la ligne, que, voilà, ou de choses plus importantes, je suis là. Tu dors quand? Je dors la nuit. Jon Snow. Quelle expo à Rennes? Je ne dis pas tout. On a fait l'horoscope déjà, mais vous n'étiez pas là. Mon Dieu, Sam, tu as retrouvé la ligne. Alors, Telou 974, il n'y a pas encore de quoi se mettre en maillot cet été, mais ça va mieux, quoi. Ça va mieux. La course à pied de prévu, ouais. Ça court, ça court, ça court, ça court. Voilà. Bien sûr qu'on va regarder Roland Garros tout à l'heure. On a parlé hier du grade de chevalier dans l'ordre du mérite de Zera. C'était dans le stream d'hier, effectivement. À la rentrée, tu vas faire gaming plus actu chaque semaine où tu alternes me dit Mix. L'idée, c'est tout faire. L'idée, c'est de garder l'hebdo Étienne chaque vendredi. Mais il faut que je trouve un sponsor et un parrain pour m'accompagner parce que c'est une émission que je ne peux pas faire si j'ai pas un soutien, un partenaire, voilà, parce que économiquement, elle ne tient pas. Donc, si j'ai un partenaire, un soutien, je fais une saison 2 de l'hebdo Étienne, je garde le vendredi. Et si j'ai un partenaire, un soutien pour ça me plaît, parce que là aussi, ça me demande un peu de moyens, eh bien, y aura une saison aussi hebdomadaire de ça me plaît, avec un jour qui pourrait être, par exemple, le mercredi, on en a parlé ensemble, voilà. Donc deux hebdos, peut-être même une troisième, et les revues de presse toujours. Voilà, c'est pas à la place, c'est en plus. Décadram, est-ce qu'il y aura des streams en juillet? En août, il y aura très peu en juillet. Je crois que je vais prendre les trois premières semaines de juillet totalement off. La dernière semaine de juillet, je vais reprendre le stream. Août, on va streamer genre tous les jours. Et je vais bosser sur mes projets pour bien installer la rentrée. Et puis après, à la rentrée, septembre, let's go, on y va, quoi. Rebonjour, il est en train de perdre sa voix, qu'est-ce qui s'est passé? Caradox, c'est la fin de saison, le corps est un peu fatigué, tout va bien. Est-ce que tu commences à doubler les gens quand tu cours ou pas encore? Dit Pépé, bébé, pas encore. Bon, je vous rappelle, j'ai beaucoup couru, course à pied, triathlon pendant toute ma life, et puis j'ai arrêté pour pouvoir streamer. Très intéressant de voir ce que peut provoquer l'arrêt total du sport pendant un an sur le corps, j'ai vu, sur le corps, sur la respiration, sur le cardio, bien, vraiment pire idée du siècle. Et donc je viens de reprendre, et c'est génial, puisque dans le parc où je cours, effectivement, eh bien, je ne double personne. Quand je dis personne, c'est personne. Personne. Le mec, la fille qui s'est mis au running il y a une semaine me double. Monsieur Pierre-Paul Jacques, très gentil, mais qui a 92 ans, qui court depuis toujours, mais qui a 92 ans, me double aussi. Voilà. Je ne double personne. Je double personne. Voilà. Un couple d'amoureux qui flâne, qui marche, qui s'arrête pour se bécoter, me double aussi. Voilà. Je ne double personne. Voilà. Pourtant, j'ai l'impression que moi, ma foulée s'allonge, je retrouve des sensations, tu vois. Mais c'est pas ça encore. Comment s'annonce votre rentrée TV? Demande Smally Twitch et d'autres. Pour l'instant, c'est un peu flou. Un peu flou pour l'instant. Plutôt Intel ou AMD, le prochain sponsor du Play. Ben, je ne vous l'ai pas dit, mais. Les deux sponsors de Samplay de cette semaine, de vendredi, restent les mêmes pour la deuxième émission la semaine prochaine, qui ont accepté de me soutenir pour ces deux émissions test bêta qui sont avérées être plutôt cool d'ailleurs. Donc merci à Intel et à Horus qui également soutiennent l'émission de vendredi prochain. C'est cool, ils me prêtent du matos aussi, des PC et tout ça, des PC qu'on voit bien d'ailleurs. Irritation sur les bras, j'arrête pas de mettre de la crème, dit Palomae. Ah ouais, ouais, parfois quand tu. Ouais, ah ouais, ça peut arriver effectivement. Bah effectivement, il y a des crèmes pour ça, ouais. Ouais. Tu fais d'autres sports que la course? Bah comme j'ai fait du triathlon, à un moment je faisais beaucoup de natation, beaucoup de vélo. Mais moi, mon kiff, c'est vraiment la course à pied, quoi. Bah à un moment, j'ai fait des gros volumes de natation et de vélo pour faire du tri, quoi. Est-ce qu'un bébé à quatre pattes te double? Oui, Dolly prend actuellement. Un bébé à quatre pattes double, oui. C'est parce que tu cours dans le mauvais sens. Bah, j'aimerais bien, mais non, pas. J'aimerais bien. Tiens, ode à la joie. Moi aussi, j'ai doublé Samuel au parc. Voilà, voilà. Voilà. Même dans ce stream, il y a quelqu'un qui m'a doublé. Bah oui. Ouais. Est-ce que tu vas signer en Arabie Saoudite? Ça n'est pas prévu, Clamakin. Toujours pas d'annonce sur l'arrêt de la matinale, me dit PPBB. Non, je ne commande pas pour l'instant les informations du Parisien. Je ne l'ai commenté nulle part, ni ici, ni ailleurs. J'ai toujours mon vélo, mais il est à la cave. Je vais le vendre de Visa, parce que je pense que le triathlon, c'est fini pour moi. Je pense que je vais reprendre la course à pied, un peu la natation, mais je ne suis pas un grand cycliste. J'en ai fait beaucoup pour le tri à une époque, mais voilà, c'est pas mon sport préféré. Si tu veux faire un sport d'équipe, j'en ai jamais fait. Mais en vrai, j'aime bien le hand. Le basket, c'est compliqué pour moi, pour des raisons de taille et d'adresse aussi. Au panier, je suis vraiment une grosse merde à un moment, il faut le dire. Mais le hand, j'aimerais bien en vrai. Quel genre de compétition je faisais? Un peu de marathon, un peu d'ultra train, un peu d'Ironman. Voilà, bon, ça c'est quand j'avais que ça à faire, quoi. Et c'est le badminton, c'est sympa. Vous êtes plusieurs à m'en parler. Non, pas badminton parce que je ne vois pas très bien non plus. Et le truc, le volant là, il est pas assez gros, quoi. Donc non. Dromadaire, est-ce que tu comptes faire découvrir le monde de la moto à tes enfants quand ils seront un peu plus grands? Non, moi j'ai été passionné de moto, j'ai eu 1000 motos, j'ai fait que ça toute ma vie. Je suis en train de travailler activement à effacer sur internet toutes les images où je suis sur une moto pour pouvoir affirmer à mes enfants que je n'ai jamais fait de moto et que c'est très dangereux et que c'est interdit. Et que, comme mes parents l'avaient fait d'ailleurs, s'ils veulent acheter une moto, il faudra qu'ils se la payent eux-mêmes. Et que je leur déconseillerais ce magnifique moyen de transport que je kiffe, mais qui est quand même super dangereux, quoi. Maintenant c'est l'e-sport. Maintenant c'est le jeu vidéo à fond, quoi. Les amis, un grand merci. Je suis en pleine forme. Ah ouais, je suis en train de surveiller les sorties de jeux vidéo parce que je me dis que ça me plaît. Ça pourrait être super sympa que ça colle aussi à l'actualité du jeu vidéo avec des jeux vidéo qui viendraient de sortir par exemple. Street Fighter 6, on l'a pas fait exprès avec Kayane. J'avais très envie que ce soit ma première invitée, mais du coup c'est bien tombé. Je vous rappelle que vendredi soir, c'est Joe qui m'a dit ça. Vendredi soir, on a été premier stream monde Street Fighter. Vendredi soir, on a été premier stream monde Street Fighter. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vu qu'on était premier stream monde Street Fighter, d'accord ? Et dans des pays étrangers, et qui sont venus voir le stream et qui ont vu un vieux machin avec le joystick, avec la manette, tu vois, en train de bugger et en train d'essayer de faire genre des quarts de truc là, quarts de manette, quarts de tour là, voilà, devant une Kayane Hilar, quoi. Imaginez la tête des gens qui ne connaissent pas le stream français. Venu voir ce stream parce qu'il était numéro 1 monde Street Fighter, en se disant putain, ça doit être un mec trop chaud ou une meuf trop chaud sur Street Fighter, voilà. Et ils sont tombés sur moi, hein, en train de rien comprendre au truc, quoi. Génial, on vit vraiment dans un monde formidable. Et là ils se sont dit, mais ils sont bizarres quand même les Français. Voilà, premier stream monde Street Fighter. Génial. Je vais vous donner quand même l'adresse pour ceux qui se perdent. C'est Tonton, bien sûr, à Suisse. Je pense que vous l'avez peut-être deviné. Je crois savoir qu'il vit personnellement une séquence compliquée, une épreuve. Je crois qu'il en a parlé en stream, donc je me permets de l'évoquer. Et c'est une façon de lui envoyer de la force, voilà, justement. Donc faites-lui un grand coucou de ma part, et envoyez-lui un max de force, parce que je crois qu'il est sur une séquence voilà, personnelle un peu dure. Voilà. Et donc, allons lui témoigner de tout notre amour. Hop, je lance le raid. Je vous souhaite un bon dimanche, bon match pour ceux qui suivent la finale homme de Roland-Garros. Il y a une prédiction en cours, on y mettra fin. Bien sûr, le raid est en train de charger. Je vous souhaite une belle journée, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. C'est parti pour Tonton, et je vous dis à demain matin pour les journaux. Ciao, ciao. Et merci.